La partie donc conceptuelle, la notion de sanction. Vous avez deux, j'ai choisi deux images liminaires. Une, c'est un trader qui de New York qui vient de se faire virer, donc qui part avec ses affaires dans sa boîte en carton, hein, au moment de la crise du début de la crise des subprimes en 2008. Puis l'autre, c'est la fameuse image de Zinedine Zidane recevant son carton rouge en finale de la Coupe du Monde de football à la suite de ces échanges virulents avec Materazzi. Bon, je crois que c'est deux bons exemples de sanctions c'est à titre liminaire. Alors, je vais essayer de faire marcher cela. Si j'arrive, non, j'ai mal fait. Voilà, c'est bien. Voilà, alors je commence. Pour ceux qui ont fait du latin ou qui sont latinistes, ça sera des banalités, mais comme je veux dire, c'est plus des banalités tout le temps, je commence par l'étymologie parce qu'elle est assez claire, elle est peu contestable, et en plus, je dirais ce qui est intéressant dans cette étymologie, c'est que cette fois-ci, elle a une butée parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient avant le latin hein, et le grec. Il y a des conjectures des étymologistes, mais en fait, on n'arrive pas à remonter beaucoup plus haut que le vieux latin et le grec. Alors, sanction, c'est sanctio, c'est consacré. Consacré, c'est un dispositif religieux, rendre irrévocable, donner un caractère sacré. Alors, en général, c'était par un sacrifice, hein, rendre sacré, et que ça se faisait, donc c'est un caractère sanglant, d'immolation d'un animal, et puis très rapidement dans la République romaine, c'est rendre sacré par la loi, c'est-à-dire la loi consacre quelque chose, elle établit une norme et cette norme ensuite rend certaines conduites correctes et d'autres transgressives et donc interdites. Donc ça veut dire aussi, deuxième sens, ça veut dire interdire. Alors il y a un rapport entre sanctio et sacer, encore que ce soit un rapport qui est contesté parmi les étymologistes. Sacer, c'est consacré à une divinité, saint, sacré, très lointainement, ça a à voir avec l'idée de souillure, hein, l'idée de celui qui est sacer et soit souillé, soit le toucher une souille, soit la transgression donne une souillure. Et puis vous avez punition, puisque c'est les deux termes qui vont intervenir aujourd'hui, mais vous verrez que je n'en fais pas une distinction clé. Punition, bah c'est poena. Hein, poena, alors là c'est clair, c'est la moralité, la moralité et la légalité rétributive, c'est poena, c'est une rançon. Hein, c'est ce qui permet de se racheter, ce qui permet de racheter une offense, donc ce qu'on verse, une amende hein, en quelque sorte. Ensuite c'est une punition, poena, peine, et c'est une peine, une douleur, un tourment. Donc tout ça est lié, donc la punition n'a rien d'agréable. C'est une manière de se racheter par rapport à une offense qui a été faite, par rapport à une transgression, la transgression de quelque chose qui était sacré. Voilà. Donc voilà pour l'origine étymologique, pardon. Voilà. Alors, préalable, c'est juste des préalables, mais ils sont quand même assez importants. Une sanction est, par définition, attachée à un acte. Elle n'est pas attachée à une personne, elle est attachée à un acte en tant que quelqu'un fait quelque chose, et cet acte entraîne quelque chose qui est une, j'ai donné l'exemple, bavarder entraîne une réprimande. Hein, je veux dire, si vous avez l'acte, l'action de bavarder, qui consiste à échanger des paroles, hein, tout simplement, et puis la sanction qui est liée, qui est la réprimande. Alors, la grande question, disons théorique, elle peut être un peu loin de vos préoccupations quand vous sanctionnez réellement, mais en fait elle est à l'arrière-plan et forcément on est obligé d'y penser. La grande question, c'est de quel type est le rattachement. Qu'est-ce qui fait qu'on rattache une sanction à un acte? Qu'est-ce qui fait que, je dirais, il y a une liaison entre l'acte et la sanction? Et la question se résume, est-ce que c'est une liaison nécessaire? Il y a très peu de gens qui défendent que c'est une liaison nécessaire, ou est-ce que c'est une liaison conditionnelle, c'est-à-dire conditionnelle, moyennant, je dirais, d'autres considérations et d'autres principes. Deuxième remarque, il y a deux types de sanctions. Alors là, on entre dans des terminologies qui varient selon les pays. C'est pour ça qu'il faut manier ça avec, je dirais, non pas prudence, mais avec des nuances et pas mal de relativité. C'est, chez les sociologues notamment, on parle de sanctions positives, une récompense, plaisir. Moi qui ai fait pas mal de sociologie dans ma jeunesse, j'ai tendance à toujours penser en termes de sanctions positives et sanctions négatives, les deux aspects. Récompenser, c'est une manière de sanctionner, hein. Donc de ce côté-là, cette récompense positive, ça consiste à donner une récompense, et donc plus ou moins d'une certaine manière, ça revient toujours à donner du plaisir. Hein. Et puis la sanction négative, la punition, la douleur, bon ben ça c'est une peine, et donc c'est une peine qui est soit effective, soit une peine par frustration d'un plaisir. Quand vous interdisez à quelqu'un, vous dites tu n'as pas été sage, tu ne sortiras pas. Vous ne lui donnez qu'une douleur qui est la frustration du plaisir de sortir, c'est pas la douleur d'un coup de règle derrière les oreilles. Bon, deux types de sanctions, positives et négatives. Mais encore une fois, on a quand même tendance, c'est pour ça que j'ai rappelé que l'anglais, si on regarde les textes sur les sanctions, en anglais c'est toujours punishment, hein, c'est la punition. Hein. C'est d'ailleurs la sanction pour les anglais, c'est toujours négatif. La sanction positive, je dirais d'une certaine manière, elle est naturelle, quoi. Alors, faut-il vraiment distinguer entre punition et sanction? Je sais que Sébastien en parlera. Bon, ce qui est évident à tout un chacun, c'est que le mot sanction est plus abstrait, plus solennel. Le mot punition renvoie à quelque chose de plus concret, de plus immédiat, je veux dire, un acte de punir. Une sanction à quelque chose de, encore une fois, d'abstrait et de solennel, la punition à quelque chose de plus concret. Et encore une fois, je dirais, sanction positive ou négative, c'est pas tout le monde qui pense aux sanctions positives, mais je dirais, remettre des félicitations, féliciter quelqu'un, c'est une sanction positive, hein. Quand j'ai fait mes études, à la toute petite école, il y avait le samedi, on remettait des médailles, c'était des sanctions positives, c'est-à-dire on avait la médaille d'excellence, de diligence ou de sagesse, c'est de la sanction, on rentrait chez soi avec la sanction positive, ou sans sanction, quand on avait, c'était juste conduit, je dirais, de manière normale et ordinaire. Voilà, alors ça c'était sur les préalables, pour donner l'éventail un petit peu des notions, et en même temps pas non plus... s'attarder sur ces affaires-là. Alors, les fonctions de la sanction. Parce qu'au fond, si on a des sanctions, c'est bien pour avoir quelques résultats. Alors, je les ai mis là. Ça va très vite. La sanction, ça permet de mettre hors circuit. Mais normalement, ça met hors circuit, ben, c'est sortez, ou bien, ah, il faudra le mettre en tôle, quoi. Je veux dire, c'est le réflexe habituel des gens. On va dire, vous avez quelqu'un de dangereux, faut le mettre en prison, ou bien tout simplement quelqu'un trouble une assemblée, sortez, hein, je veux dire, voilà, c'est le rôle mis hors circuit. Deuxième fonction, dissuader de recommencer. Bon, ça s'exprime par vous n'aurez pas, après ça, vous n'aurez pas envie de recommencer, hein, vous saurez de quel bois je me chauffe. Ensuite, c'est transformer. De toute manière, toutes les sanctions ne remplissent pas toutes ces fonctions-là, hein. Il faut bien voir que c'est ça qui est intéressant aussi dans le jeu avec les sanctions. Il y a la fonction qui est transformatrice. Ah ben oui, je vois que vous avez changé, hein, comme vous avez changé après la punition que vous avez subie. Établir la justice, qui est quelque chose d'aussi important, mais qui est, disons, aussi séparé. Établir la justice, vous l'avez mérité. Hein, vous l'avez bien mérité, vous ne l'avez pas volé. Et puis rétablir et conserver l'ordre. Rétablir et conserver l'ordre. Il y a eu quelque chose, une transgression qui a mis du désordre, et il faut, là on revient au sens de Poena, hein, il faut qu'il y ait une sanction qui rétablisse les choses en l'état, hein, par une amende compensatrice, ou simplement montrer que la règle a été remise en vigueur et qu'elle n'est plus bafouée. Donc c'est fini, on n'en parle plus. Hein. Pensez que quand vous utilisez ces expressions-là, vous voyez, des expressions extrêmement concrètes et pratiques que vous utilisez tous tous les jours, vous avez derrière des fonctions différentes. Quand vous dites c'est fini, ben ça veut dire que vous avez en vue que l'ordre a été rétabli, conservé. Quand vous l'avez mérité, c'est la justice. Quand vous dites comme vous avez changé, c'est transformé. Quand vous n'avez pas envie de recommencer, c'est la dissuasion. Sortez, c'est mettre leur circuit. Alors je vous donne comme exercice pour le week-end, avec copie à rendre lundi, vous appliquez tout ça au verdict du procès Clearstream, par exemple, et vous verrez que ça marche très bien. Selon les acteurs, bien sûr. Il y en a qui n'auront pas envie de recommencer, il y en a qui seront peut-être mis un temps hors circuit. Je ne sais pas si la justice aura été vraiment rétablie. Je ne sais pas s'il y en a qui n'auront pas envie de recommencer, mais bon, vous voyez, voilà, établissez ça avec le procès Clearstream. Ça peut être des très bons. Moi, je suis favorable à faire de la philosophie par exercice pratique. C'est tout à fait possible. Alors, il y a deux aspects dans la sanction. Deux aspects dans la sanction, c'est qui sont des aspects qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut voir la sanction sous ces deux aspects-là et en même temps. Vous pouvez l'avoir du point de vue de l'efficacité, du point de vue de la justice. Ça, c'est un premier aspect. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sanctions pour lesquelles on se préoccupe absolument pas de la justice. Un radar automatique, ben, ce que ce qu'il veut, c'est faire baisser la vitesse moyenne des automobilistes. Que si c'est une pauvre personne inattentive qui est prise en excès de vitesse et que c'est la première fois de sa vie qu'il dépasse le 60 à l'heure, ou que ce soit quelqu'un qui est coutumier des excès de vitesse, on ne veut pas le savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est l'efficacité. Je veux dire. Alors qu'avant, quand c'était verbalisé directement par un agent, vous pouviez toujours plaider votre cause, vous voyez. Vous pouvez toujours dire, mais c'est la première fois que j'enfreins la loi, etc., de ma vie, j'ai été un citoyen. Quelquefois, vous pouviez apitoyer le gendarme. Ça pouvait arriver. Là, si vous avez justement une envie d'efficacité, vous automatisez la sanction efficacité. On montre que ça marche. Alors, il y a des sanctions qui marchent très bien. Je veux dire que, en Iran, de partout dans les pays où il y a la charia, vous savez, si vous coupez la main au voleur, il recommence pas, parce que tout de même, il leur manque une main. Donc, c'est réglé. L'autre aspect, c'est la justice. Donc, posez-vous la question, quelles sont les sanctions efficaces qui font que ça ne recommence pas? Quelquefois, ça peut être une sanction tout à fait injuste, je veux dire, mais ça fait partie aussi de l'arsenal des actions possibles. La justice, alors là, c'est différent. On veut que ça soit juste. On veut que les gens trouvent que finalement, c'est bien pesé, c'est bien mérité, et c'est la juste peine. Et puis, très souvent, surtout dans nos sociétés qui sont quand même maintenant un peu des sociétés évoluées et civilisées, pas tous les jours ni tout le temps, on demande les deux. On demande que ça soit juste et efficace, qu'il y ait la proportion et que ce soit néanmoins efficace. C'est le problème, par exemple, de la durée des peines de prison, de l'aménagement des peines de prison. On veut à la fois que ce soit juste par rapport à la gravité des infractions et en même temps, on veut que ce soit efficace. Et qu'en même temps, on laisse aux gens des possibilités de s'en sortir, de se renouveler, de changer. Donc on cherche les deux, la proportion et l'efficacité. Par exemple, la limitation des peines de la détention à perpétuité, je veux dire à 30 ans, c'est chercher à la fois être juste et efficace. La manière américaine, c'est très simple, c'est perpétuité, non sans libération conditionnelle possible. Donc à ce moment-là, c'est la recherche seulement de l'efficacité. Vous prenez un terroriste, vous décidez qu'il est de toute manière dangereux, donc comme Moussaoui, vous le condamnez à une perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Vous n'avez pas forcément la justice, mais vous avez l'efficacité. Deuxième point de vue, c'est regarder en arrière ou regarder en avant. Vision rétrospective ou vision prospective. Alors, regarder en arrière, c'est chercher la relation de rétribution entre l'acte et la sanction. Pourquoi il a fait cela et qu'est-ce que ça mérite? Ça, c'est en général ce qu'on appelle plutôt le point de vue déontologique, on peut le représenter par la philosophie de Kant, un point de vue déontologique absolu. Il y aurait des actes, et puis quand on en identifie les tenants et aboutissants, ils auraient en quelque sorte un tarif. Ça, c'est le point de vue déontologique qui est assez présent dans nos esprits. Est-ce que ça mérite, c'est la gravité de l'acte, qu'est-ce que ça mérite la gravité de l'acte? Puis vous avez la vision qui est la vision en avant. Alors là, c'est le point de vue de l'utilité, ce qu'on appelle le point de vue, chez les philosophes, le point de vue conséquentialiste. C'est-à-dire, quelles conséquences ça aura la sanction, quelle rétribution je vais donner à l'acte par rapport au but auquel je veux arriver. Et donc là, en l'occurrence, vous n'aurez pas du tout le point de vue absolu. Ça sera, je cherche une sanction qui fonctionne et qui assure son utilité. Alors, maintenant, on en vient justement aux médiations entre la sanction et l'acte. Je vous ai dit, il y a un acte, le bavardage, et puis une sanction, la réprimande, ou bien l'exclusion de la classe. Donc, sous quel principe on va lier les deux? Alors, une chose qui est importante à dire, ça renvoie à un livre de philosophie française, mais que tout le monde a donné ça, sauf que dans la, au bas de ma colonne de gauche, je mets un gros point d'interrogation. C'est Jean-Marie Guyot, dans les années 1890, qui a fait un livre qui s'appelle « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction ». Et il dit « Un acte en lui-même n'implique aucune sanction, ni positive ni négative. Il est ce qu'il est, il a ses conséquences naturelles, mais aucune conséquence morale. » Donc il n'y a pas de tarif qui soit lié à un acte et peut être bon ou mauvais, et néanmoins ça n'implique aucune rétribution particulière. Ça, on l'admet tous, parce que c'est très facile à accepter pour la plupart des actes. Si vous pouvez tuer quelqu'un sans le tuer intentionnellement, vous pouvez le tuer accidentellement, vous pouvez le tuer en étant non responsable pendant un accident de la route. Hein, vous avez un accident de la route, votre passager meurt, d'une certaine manière, vous l'avez tué. Bon, et vous n'en êtes pas responsable. C'est l'acte est le même, vous avez tué quelqu'un, mais selon, les perspectives où vous le prenez, l'acte en lui-même n'implique pas de rétribution particulière, et c'est ce que la loi prend en compte en établissant des barèmes selon la manière dont on va juger l'acte. Mais je dirais que moi je ne suis pas du tout d'accord avec Guyot, surtout, parce que je pense qu'il y a des actes qui sont des actes bons absolument et mauvais absolument, et qu'eux impliquent une rétribution elle aussi absolue, parce que c'est toujours facile pour un accident de la route de tuer accidentellement, c'est pas grave. Mais quand les gens tuent des millions de gens de sang-froid, je vois pas comment on peut continuer à maintenir l'argument de Guyot. Mais Guyot écrivait en 1880, avant l'époque des génocides et avant l'époque des guerres, des grandes guerres boucheries. Donc je crois qu'il y a certains actes, la torture, par exemple. Allez donc m'expliquer que la torture. Vous voyez, l'argument de Guyot, il est terrifiant, parce que si ça voudrait dire que la torture, ben selon les cas, vous pouvez la légitimer, vous pouvez pas la légitimer. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que la torture, c'est un mal absolu, et c'est comme ça. Voilà. Alors, donc, je donne tous les deux points de vue. Deuxième côté, un acte n'entraîne de sanction que moyennant un principe de liaison. Alors, la liaison, c'est, je les ai énumérés rapidement, c'est l'utilité. C'est-à-dire, la sanction va permettre soit que l'acte soit répété quand vous récompensez quelqu'un, soit que l'acte ne soit pas répété quand vous le punissez. Ensuite, deuxième principe, c'est que vous pouvez sanctionner justement pour apprendre aux gens à respecter les règles. Là, c'est pour leur apprendre, disons, la loi, être discipliné, être respectueux de la loi. Ça n'a pas à voir avec l'utilité du comportement directement, mais plutôt, je dirais, une manière générale de se comporter. Troisième principe de condition, c'est l'éducation de la personnalité. Vous pouvez sanctionner pour apprendre aux gens ce que c'est que les conséquences de leur acte, pour apprendre à être responsable. C'est encore une autre chose. C'est une troisième, fonction de la sanction. Et puis vous avez une quatrième relation qui serait, ça c'est plutôt les philosophes kantiens, le lien qui est ce qu'on appelle analytique ou logique entre un acte et sa rétribution. Et là, je dirais que ça renverrait plutôt au bas de ma colonne gauche. C'est, je crois qu'il y a certains mots qui sont des mots absolus, qui impliquent logiquement une rétribution absolue et sans aucun état d'âme, qui est ni utilité, ni respect des règles, ni éducation de la personnalité, mais la neutralisation du mal. Alors, quelques illustrations. Ça, c'est pour que ça se reproduise plus. C'est une illustration du petit journal, 1908. L'assassin qui brusquement réfléchit, qui voit la guillotine. Vous voyez, comme il voit la guillotine, et son couteau va tomber. Et voilà, là, c'est pas quand on va recommencer. Là, c'est la maison de correction, c'est-à-dire, c'est pour former la, je sais pas si ça marchait, mais pour former la personnalité, pour dresser les gens. L'apprentissage des règles. Bon, une première compagnie de gendarmes, de policiers, cyclistes, et puis ça, c'est plutôt ce que j'appelle le mal, c'est-à-dire l'absence là de conditionnalité par rapport à ces types de comportements. Alors l'art de la sanction, et c'est ma dernière diapositive, donc j'en aurai terminé. L'art de la sanction, c'est-à-dire quand je dis art, c'est parce que il s'agit d'appliquer ça. Donc c'est bien joli d'avoir la théorie, mais comment est-ce qu'on fait, comment on s'y retrouve pratiquement? Alors, j'énumère des choses, mais ça, ça sera beaucoup mieux vu du point de vue pratique avec Sébastien. La sanction ne doit pas être dramatisée, elle ne doit pas être hystérique, mais elle doit être solennelle. Il y a une solennité de la sanction qui rappelle certaines choses, qui rappelle la force de la loi, la nécessité du respect des règles, etc. Donc, pas de dramatisation, mais solennité. L'explication. Sauf dans le cas, je dirais, des pures situations de dressage, où je pense qu'il y a des gens ou des âges où les gens, on n'a pas à expliquer tout toujours, hein, je veux dire. Donc, mais en général, la sanction doit être expliquée, parce qu'on a affaire quand même à des êtres intelligents. La sanction n'est pas personnalisée, c'est pas à la tête du client en quelque sorte, mais elle doit être adaptée. Donc là, c'est toujours un problème particulier, parce que comment est-ce qu'on fait quelque chose qui n'est pas individualisé et qui néanmoins est adapté, je veux dire, c'est un peu, je vous demande quelque chose de contradictoire. Elle doit être apaisée et réparatrice, c'est-à-dire que l'idéal c'est qu'elle termine par bon, maintenant c'est réglé, passons à autre chose. Hein? Et puis elle doit être effective, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit une promesse de sanction, une parole de sanction, une évocation de sanction, mais qu'effectivement elle joue son rôle et qu'elle soit mise en place. Les écueils, très importants, c'est-à-dire dans toute situation humaine, vous travaillez en face de spectateurs, les spectateurs pouvant être présents comme ils pouvant être absents ou virtuels, c'est-à-dire vous avez le comportement du groupe et puis en dehors le comportement du groupe dans le lycée, et puis en dehors les parents, et puis en dehors l'inspection générale, et puis en dehors encore les journalistes, hein. Ça fait beaucoup de monde dans les comportements des groupes par rapport à la sanction. Vous avez la rébellion individuelle, ça c'est un des cas les plus intéressants, c'est-à-dire les gens qui refusent la sanction, carrément, je veux dire, les gens qui disent non, ça c'est un des problèmes de l'autorité le plus important, c'est quand les gens vous disent non, tout simplement, disent non, ils n'expliquent pas, ils ne discutent pas, ils disent non. Vous avez l'incertitude sur la règle, alors quand le groupe où les groupes ne sont pas du tout d'accord sur la règle, ou qu'on ne sait pas très bien quelle est la règle, qu'elle n'est pas bien définie. Le refus de la responsabilité, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus fréquent, le refus de la responsabilité, les gens agissent, mais ils considèrent que leurs actes ne sont plus à eux. Bon, ça relève de la psychologie contemporaine, mais c'est un des écueils. Et puis, un dernier écueil qui est tout à fait important, c'est la stupidité. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idiots aussi, des idiots volontaires et des idiots involontaires, et la stupidité est un élément très important dans la sanction. Parce que si vous n'arrivez pas à faire comprendre, c'est-à-dire un des problèmes que nous avons tous, hein, je veux dire, c'est le déficit langagier, le déficit d'intérêt, c'est que très souvent vous allez dire aux gens des choses qu'ils vont absolument pas comprendre, et ils vont considérer que la sanction, aussi juste soit-elle ou solennelle, c'est une atteinte personnelle à leur honneur individuel, etc. Et il y a le problème de la stupidité qui est assez courant. Et qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de prendre les gens pour des idiots. Moi, je ne prends jamais les gens pour des idiots. Au contraire, il vaut mieux les prendre pour plus intelligents qu'ils ne le sont. Mais il ne faut jamais exclure la condition de la stupidité comme élément de dysfonctionnement. Puis j'ai laissé pour le fond, pour le bas, la question de fond, et je m'arrête là-dessus, parce que dans notre droit et dans notre tradition juridique qui est profondément inscrite en nous, la sanction comme la responsabilité sont individuelles. Dans les sociétés antiques, primitives, ou actuellement encore en Albanie par exemple, et même quelquefois en Corse par exemple, vous avez des responsabilités de groupe. Je veux dire, quand il y a un crime de sang en Albanie, je lisais les romans de Cadaré, ce crime doit être compensé par un crime de sang contre le groupe, contre le clan adverse. Et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est un des problèmes, des gens dans les Balkans. Il peut y avoir de la responsabilité collective. Or, je pense que dans nos sociétés, il y a de plus en plus de cas de responsabilité collective. Il y a de plus en plus de situations parce que les actions sont éminemment complexes, les comportements sont complexes, et que la question donc des sanctions collectives se pose à nouveau. Se pose à nouveau parce que sinon, effectivement, en général, on s'en sort dans les tribunaux en sanctionnant les personnes morales, les sociétés, les entreprises. Mais je crois que la réponse. J'ai lu hier soir dans Le Monde que le tribunal de New York avait rendu son verdict dans l'affaire de la class action contre Vivendi et Jean-Marie Messier. Jean-Marie Messier a été déclaré innocent, il est totalement innocent, tout ça. En revanche, Vivendi, collectivement, a été déclaré responsable et va devoir indemniser les actionnaires. Donc, ce que les jurés américains ont pensé, c'est que Messier n'avait sûrement pas pu faire ça tout seul, et que c'était la société qui était impliquée là-dedans. Aussi, comme les Américains, ils ont dû penser que Vivendi pouvait plus payer que Messier. C'était possible, mais vous voyez que la question de la responsabilité collective aujourd'hui se pose, je pense, dans certains phénomènes de ce qu'on appelle de mobbing. C'est ce qui s'est passé un peu au lycée Jean Lursa, hein, vous avez peut-être entendu parler de ça, quand toute une classe se monte contre un prof, le persécute, demande son départ, etc. Moi, personnellement, on peut chercher les meneurs dans ce cas-là, mais je pense que une dérouillée collective s'impose aussi. Voilà. Merci.
M'entendons, c'est bon, merci. Alors, bonjour, je suis Sébastien Clerc, je suis professeur de français et d'histoire-géographie dans un lycée professionnel au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, depuis 10 ans. Il y a 2 ans, donc en septembre 2008, j'ai eu la chance de faire éditer un livre que j'avais envoyé comme une bouteille à la mer, dans lequel j'ai raconté comme mes premières années dans cet établissement ont été difficiles. Vous le savez, on organise en France la rencontre entre les publics les plus remuants et les enseignants les plus débutants, les plus inexpérimentés. Donc, j'ai été chahuté, naturellement. On m'a bousculé, baptisé au stylo à encre, on m'a craché dessus. J'ai voulu aussi dans ce livre suggérer un certain nombre de pistes de solutions, puisque aujourd'hui je suis heureux dans mon métier, et l'une de ces pistes de solutions a plu, voilà, à Monsieur Blanquer, le recteur de l'Académie de Créteil, qui m'a convoqué pour me demander de la mettre en place dans l'Académie de Créteil. Alors cette piste de solution que j'évoquais, c'était à côté des cours que nous avons reçus à l'IUFM, qui étaient finalement des cours sur comment fabriquer des cours, c'est-à-dire la partie travail à la maison du métier. C'était que nous puissions avoir des... Il y a un micro qui doit faire interférence, je suis désolé. Celui-là, il est fermé. Hein.
Non, celui-là est fermé aussi. Non, c'est pas le même. C'est celui pour la salle et c'est... Non, mais ce qui est très curieux, c'est... Pourquoi il y en a deux ?
Ben, en fait, il y avait... Excusez-nous, hein.
Allez, on recommence.
Bon, excusez-nous. Voilà, donc cette piste de solution que j'avais évoquée et qui a retenu l'attention de M. Blanquer, alors recteur de l'Académie de Créteil, c'était une formation de tenue de classe pour les enseignants néo-titulaires, dans le cadre de laquelle on apprenne concrètement où se positionner dans la salle de classe, comment faire quand un début de bavardage s'installe, comment capter l'attention des élèves, comment instaurer un rapport chaleureux avec les élèves, comment réagir quand un élève est insolent, comment sanctionner en évitant les maladresses. Voilà, à titre expérimental, donc l'année dernière, j'ai donné 4 fois une journée de formation tenue de classe, à chaque fois devant 25 enseignants néo-titulaires. Et comme, suite à une enquête menée par le rectorat, la formation a donné lieu à une satisfaction ou une grande satisfaction chez plus de 90% des néo-titulaires, en gros c'était enfin du concret, Monsieur Blanquer a décidé pour cette année de généraliser la formation tenue de classe dans l'Académie de Créteil. Et donc nous avons en septembre travaillé à la formation de formateurs pour pouvoir étendre le dispositif. Je suis désolé. Est-ce que finalement...
Non, moi je crois que c'est la pile, comme d'hab. Je pense que c'est la pile, moi.
Est-ce que finalement... Ça... Les deux écueils, les deux abcès à crever quand on parle de tenue de classe, c'est tout d'abord, oui, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Et cette année, j'ai pu connaître des séances de chahut. Il y a de cela un peu plus d'un mois, dans une salle où les volets étaient fermés. Nous sommes dans des bâtiments préfabriqués cette année dans mon lycée, puisque le lycée est en reconstruction. Et les élèves avaient coupé les sangles pour relever les volets. En début d'heure, un élève a éteint la lumière. Obscurité complète, vous imaginez le chahut. Je me suis jeté sur un ruban pour l'attacher bon an mal an. Mes deux élèves avaient commencé à se battre, des gaillards de 18 ans qu'il a fallu séparer. Et quand un début de cours commence d'une façon aussi chaotique, eh bien on rame vraiment pour rétablir des conditions satisfaisantes de transmission des connaissances. En l'occurrence, je n'y suis pas parvenu. Et mon cours a été chahuté. Donc il n'y a pas de solution miracle. Pour autant, évidemment, il existe quantité de pistes qui permettent à un enseignant qui a 10 ans d'expérience de s'en sortir mieux qu'à un enseignant qui débute. Et je pense qu'on gagne à échanger sur ces pistes. Le deuxième abcès à crever quand on parle de tenue de classe, c'est que, évidemment, tous les conseils dont on peut parler sont complètement à trier, à relativiser, en fonction de notre tempérament d'enseignant, en fonction des classes avec lesquelles nous travaillons, et en fonction de la culture d'établissement. Et bien sûr, il y a une grande différence entre votre établissement et mon établissement. Voilà, donc pour ce sujet sur les sanctions, je vous propose d'en parler en trois points. Tout d'abord la nature des sanctions, puis l'acceptabilité des sanctions, enfin l'efficacité des sanctions, puisque j'ai trouvé que le libellé avait été vraiment bien pensé sur cette intervention. Je commence donc par la question de la nature des sanctions. Alors, dans l'éducation nationale, chacun sait que nous avons l'habitude de distinguer entre les punitions que nous pouvons décider, nous, enseignants, à savoir des heures de colle, à savoir du travail supplémentaire, par exemple, et les sanctions qui ne peuvent être décidées que par le chef d'établissement, c'est-à-dire des journées d'exclusion, c'est-à-dire, par exemple, un avertissement. Voilà. Alors, je regrette personnellement cette terminologie je n'utilise jamais le mot punition. Il me semble que dans le mot punition, il y a une idée simplement de rapport à deux, direct et vertical, entre le professeur et l'élève, hein, quelque chose d'assez basique, d'assez primaire, dans les connotations du mot, hein, où l'élève commet une transgression et en retour, l'enseignant fait tomber sur lui une punition. Voilà, alors que dans le mot sanction, au niveau des connotations du mot, hein, intervient un troisième terme qui est la loi, la règle, le règlement de l'établissement. C'est la raison pour laquelle je préfère utiliser le mot sanction. Donc l'élève commet une transgression vis-à-vis de l'enseignant, mais l'enseignant en réfère à quelque chose qui est au-dessus de l'élève, mais qui est aussi au-dessus de nous, hein, la loi, la règle, pour décider de la sanction. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'utilise le terme de sanction dans tous les cas, y compris pour ce qui est de ce que je peux décider moi en tant qu'enseignant. J'en viens au deuxième point sur la question de l'acceptabilité des sanctions. Alors déjà, acceptabilité vis-à-vis de qui ? Acceptabilité vis-à-vis, bien sûr, de l'élève, vis-à-vis de sa famille. Hein, il ne s'agit pas que ce soit humiliant, il ne s'agit pas évidemment que ce soit douloureux physiquement. Acceptabilité également vis-à-vis de l'établissement. Je vous donne un exemple. Quand j'ai débuté, il m'arrivait trop souvent d'exclure facilement les élèves. Et évidemment, ça pose des problèmes par rapport à un engorgement de la vie scolaire. Donc il y a aussi une question à nous poser d'une acceptabilité des sanctions par rapport au fonctionnement de l'établissement. Enfin, acceptabilité vis-à-vis de nous-mêmes, puisque pour certaines sanctions, finalement, ça donne tellement de travail à l'enseignant que ça devient une sanction pour le professeur aussi. Et dans mon établissement, c'est le cas des heures de colle, puisque quand nous mettons une heure de colle, c'est à nous de la gérer de A à Z, donc de trouver un collègue qui va accepter de prendre l'élève, de trouver un créneau en fonction de l'emploi du temps du collègue, l'emploi du temps de l'élève. Si l'élève n'a pas fait l'heure de colle, il faut doubler les heures de colle, donc c'est deux fois plus difficile à organiser, etc. Si bien que j'ai finalement renoncé à mettre des heures de
de Kant. Alors, sur cette acceptabilité, par rapport cette fois à l'élève, des sanctions, je ne peux pas, dans un sujet comme celui-là, ne pas parler du tout de la pédagogie. Je pense que ça serait mentir, puisque évidemment, avec une classe difficile, pour tenir les élèves, pour pouvoir assurer la transmission des connaissances, travailler qu'avec des sanctions et en multipliant les sanctions, ça n'est tout simplement pas efficace. Ça n'est pas juste et ça n'est pas efficace. Donc, simplement quelques rappels sur les priorités avant de penser à la sanction quand quand nous sommes confrontés à une classe qui est difficile. C'est le soin porté à nos documents pédagogiques, notamment le premier document, celui qui va lancer le cours, que j'appelle un document cheval de Troie, si possible au rétroprojecteur et en couleur, pour que ce soit percutant, pour lancer tout de suite les échanges pédagogiques avec les élèves, de truffer notre cours de devinettes, entre guillemets, d'anecdotes intéressantes, puisque les élèves respectent davantage un enseignant qui sait exciter leur curiosité intellectuelle. De faire attention à notre échelle de notation également, puisqu'une échelle de notation trop sévère risque de faire qu'un certain nombre d'élèves se disent « pour me faire remarquer dans ce cours, ma seule solution, c'est de chahuter ». Et je pense notamment à la situation de quelques collègues qui se retrouvent avec des moyennes entre 0 et 9 sur 20 pour le meilleur de la classe et qui se plaignent de difficultés avec les élèves. Encore une fois, c'est adapté. Ce qu'on peut sans doute se permettre en classe préparatoire, avec une classe un peu difficile, posera davantage de problèmes. Monsieur Michaud a parlé des sanctions positives, et alors j'utilise un système de notes de sérieux qui est dégressif, c'est-à-dire qu'on part de 20, et puis je distribue aux élèves les conditions nécessaires pour conserver ce 20. Je précise que cette note de sérieux, comme j'ai une quinzaine de notes en français, ne va intervenir au final que sur un point, 1,5 point par rapport à la moyenne. Il faut que ça reste significatif, bien sûr. Attention aussi à assurer de la méthodologie dans nos cours, parce que l'une des raisons pour lesquelles des élèves vont chahuter, c'est qu'ils ne comprennent plus, et qu'ils se disent là aussi que la seule façon de se faire remarquer dans ce cours, c'est de chahuter, puisqu'il n'y a pas possibilité de se faire remarquer en répondant d'une manière juste aux questions. On ne maîtrise plus le vocabulaire de base. Donc c'est aussi une question à se poser en matière de tenue de classe. Attention à tout ce qui permet d'instaurer un climat de respect avec ses élèves. Alors, saluer les élèves, nous le faisons tous, et je le faisais bien sûr dès le début de ma carrière. Ce qui est efficace aussi, c'est de demander comment ça va, notamment un élève avec lequel on a eu des difficultés la semaine précédente. Comment ça va, Michael, aujourd'hui? L'élève est surpris, il est disposé favorablement et il a moins envie de se révolter, on aura moins à utiliser des sanctions. À chaque fois qu'on peut s'en sortir par l'humour, c'est préférable. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Une élève qui, par provocation, certainement en début d'heure, se met à brancher son téléphone portable sur une prise à côté de la table. Bon, si j'avais utilisé tout de suite la sanction, déjà, d'une certaine façon, j'aurais fait un peu le jeu de l'élève puisqu'elle cherchait la provocation. C'est aussi du travail pour moi. Bon, voilà, je lui ai dit, allez-y, étendez votre linge, tant que vous y êtes, vous êtes chez vous. Bon, voilà, on peut passer ensuite à autre chose, simplement en utilisant, en pensant à utiliser l'humour quand c'est possible et quand la situation le justifie. Attention aussi au travail sur notre présence physique, c'est-à-dire notre charisme. Alors, le charisme, ça n'est pas un rayonnement magique qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance, et j'ai pu le travailler au long de ma carrière, notamment par l'imitation de collègues, c'est-à-dire que un exercice qui vraiment m'a été utile, c'est l'observation mutuelle entre collègues, et puis on discute ensemble sur ce qui peut être amélioré. Évidemment, on tient mieux sa classe, on a moins besoin des sanctions si on se tient debout, le plus proche possible physiquement de ses élèves, en bougeant un peu des bras, en se tenant droit, que si on fait cours en étant à hauteur du bureau, voûté en s'appuyant sur le bureau et en regardant les élèves de trois quarts. attention à tout ce qui permet aux élèves de comprendre cette notion qui s'appelle l'inégalité pédagogique. L'inégalité pédagogique, c'est cette idée importante pour nous qu'il n'y a pas d'égalité entre un enseignant en train de faire cours et ses élèves. Les personnes sont égales, naturellement, mais dans la situation de cours, il n'y a pas d'égalité entre l'enseignant qui fait cours et ses élèves. Ça, si on l'explique aux élèves, bon, on risque d'avoir des rébellions, ils ne seront pas forcément d'accord. Mais nous n'avons pas à l'expliquer, hein. C'est plutôt par notre façon de nous tenir, par le côté correct de notre langage, que nous pouvons le leur faire comprendre. Que par de longs discours. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui peut servir de prévention aussi en matière de désordre, c'est-à-dire la construction d'un plan de classe, c'est-à-dire les fiches de suivi, sachant que la règle, c'est que tout ça, bien sûr, ça prend du temps de traiter les problèmes, notamment de les traiter en amont, de voir les parents. Mais la règle, c'est que souvent, dans ce métier, c'est quand on cherche le plus à s'économiser, à en faire le moins possible, qu'au final, c'est plus de fatigue à la fin de la semaine, puisqu'on n'a pas traité les problèmes et qu'ils ont pu s'envenimer. Alors, attention également, quand on le peut, il est préférable de se servir de la menace de sanction. Mais comment la rendre crédible dans la tête des élèves pour éviter là aussi d'avoir à trop sanctionner? Alors c'est une collègue, alors que je me plaignais d'une classe qui était particulièrement bavarde, qui m'a soufflé une piste de solution. Et que j'utilise assez régulièrement et que des élèves ont appelé l'encadré de la mort. J'ai repris le terme. Il s'agit tout simplement d'un encadré dans le tableau dans lequel je note rapport plus sanction. Et quand des élèves, bien que s'il n'y avait pas de plan de classe, je les ai fait se déplacer, continuent de bavarder malgré mes avertissements, eh bien j'inscris leur prénom dans cet encadré. Les élèves savent que si à la sonnerie de fin de l'heure, leur prénom est encore dans l'encadré, c'est un rapport, plus une sanction, plus une lettre de demande d'excuse. La sanction et la lettre de demande d'excuse étant exigées pour pouvoir réintégrer mon cours la fois suivante. Voilà. Naturellement, si l'élève, après 10 minutes, s'est calmé, j'efface son prénom. Si il continue de bavarder, je souligne son prénom pour lui faire comprendre que vraiment là, s'il veut réchapper au rapport à la sanction, à la lettre de demande d'excuse, il va falloir que je ne l'entende pas, sauf si, bien sûr, il participe en levant la main jusqu'à la fin de l'heure. Voilà, juste pour souligner l'utilité de cette technique, dans une de mes classes cette année, j'ai deux élèves qui sont hyperactifs. Et l'une des deux m'a dit « Monsieur, ça m'aide bien votre méthode pour que je fasse attention et que je suive d'avoir mon prénom au tableau. » Ça rend plus crédible la menace de sanction. On n'a plus à utiliser sa salive, son énergie. Le simple prénom dans cet encadré met la pression sur l'élève directement. Voilà. Deuxième conseil, cette fois pour éviter d'exclure les élèves trop rapidement et aussi de sanctionner trop rapidement. Quand j'ai débuté, il m'arrivait trop souvent d'avoir recours facilement, je le disais, à l'exclusion de classe. Par exemple, un cas de refus d'obéissance, un élève à qui on demande de se déplacer et qui dit non, voilà. Donc, souvent, je m'énervais rapidement et je disais, bon, ben, c'est la porte. Voilà. C'est bien de prévoir une procédure pour donner sa chance à l'élève, à un moment donné, de se déplacer, avant d'en arriver, bien sûr, à une exclusion, à une sanction. Voilà, donc, à présent, quand un élève refuse, par exemple, de se déplacer, ce que je fais généralement, d'abord, je reformule ma demande en insistant sur ma politesse. J'ai bien dit s'il vous plaît, je ne me place pas dans un rapport viril d'opposition avec l'élève, je le lui fais comprendre, que je lui demande ça tout en le respectant. L'étape suivante, s'il n'a pas cédé, je lui montre que je le traite en adulte. Kevin, vous comprenez que je ne peux pas me permettre de céder. Si je renonce, le prochain élève à qui je demanderai de se déplacer me dira « Avec Kevin, vous avez cédé ». Donc je joue carte sur table sur lui, je lui explique pourquoi je ne peux pas me permettre de céder, ce qui me rend crédible aussi dans ma démarche. S'il n'a pas cédé, je m'avance vers lui. Et il y a cette tournure qui permet de rappeler l'inégalité pédagogique d'une manière assez percutante, brève. Je suis professeur et vous êtes élève, je vous ai fait une demande, vous obéissez. Hein. Cette idée, je suis professeur et vous êtes élève, ça recadre hein, la situation dans laquelle on se trouve. Et puis, s'il n'a pas cédé, là j'en viens aux menaces, je ne voudrais pas en venir à un rapport, une sanction, une journée d'exclusion pour refus d'obéissance à un enseignant que je vais demander au chef d'établissement. Hein, je précise bien ce qui est de mon ressort et ce qui est du ressort du chef d'établissement. Et puis, dernière étape, je sors la fiche incident hein, et je commence à écrire tout en restant très calme. Il y a des élèves parfois qui ont épuisé la procédure et qui cèdent à ce moment-là. Quand un élève a cédé, renforcement positif entre guillemets, je remercie hein, parce que je sais que chez certains élèves, ça leur en a coûté d'obéir. Voilà, alors j'en viens à mon dernier point, l'efficacité, la question de l'efficacité des sanctions. Alors comment penser une sanction pour qu'elle soit efficace? Je me souviens d'un passage dans Triste Tropique de Lévi-Strauss au sujet des Indiens d'Amérique sur la façon de traiter l'un d'entre eux quand il a été violent. Et j'avais trouvé cette manière de la collectivité de traiter cette question de la violence assez intéressante. La communauté ne va pas être violente physiquement envers cette personne. Et je trouve ça déjà intéressant au niveau de l'exemple donné. On dénonce la violence physique, on ne va pas être violent physiquement avec la personne. En revanche, il casse le matériel de cette personne, il casse son tipi, il casse ses affaires. Voilà. Et donc cette personne se retrouve sans tipi, sans affaires, etc. Au bout d'un laps de temps, la communauté va faire un cadeau à cet Indien qui a été violent et qui s'est fait casser toutes ses affaires, comme pour lui faire comprendre qu'il est toujours en lien avec le clan, qu'il est toujours en lien avec la tribu. Et cette personne qui vient de recevoir un cadeau doit faire un cadeau à la communauté pour remercier la communauté de le réintégrer. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant puisque dans cet exemple, la sanction est conçue comme un échange, pas comme un point final. Elle est conçue comme un échange. Naturellement, il y a quelque chose de douloureux. Hein. On doit en passer par là, par la sanction, mais qui respecte quand même la personne. Et il y a ensuite, les cadeaux, c'est des échanges, hein. Il y a ensuite ces échanges qui permettent à la personne d'être réintégrée à la communauté. Finalement, quel est l'objectif d'une sanction? C'est de pouvoir réintégrer quelqu'un en ayant modifié son comportement dans la communauté. Il y a un deuxième objectif qui est de protéger évidemment la communauté, mais qui est un objectif par défaut. Le premier objectif, ce serait de faire revenir la personne dans la communauté. Donc, pour cela, finalement, ce sur quoi je suis retombé en termes de sanctions et qui m'apparaît le plus efficace, eh bien, c'est de donner donc des exercices à faire pour la fois suivante à l'élève, hein, en précisant bien que si les exercices ne sont pas faits, bien, je ne l'accepterai pas en cours. Plus une lettre de demande d'excuses. Je m'arrange pour que les exercices ne soient pas trop difficiles. Le but, c'est que la démarche ait été faite. Il ne faut pas que ce soit assommant. Et je termine toujours mon rappel à l'ordre, hein, que j'ai fait calmement avec l'élève, en lui expliquant le rapport, la sanction, et puis la lettre de demande d'excuses. Je termine toujours en disant « Je vous souhaite une bonne journée ». Je termine sur une note positive pour faire comprendre à l'élève que le lien demeure, hein, et que je l'invite simplement, lui aussi, à entrer pleinement dans ce lien. Donc, comme dans mon établissement, même si je pense qu'il faut continuer de concevoir la sanction comme un échec, hein, après ce dont j'ai parlé, eh bien, on est souvent, très souvent, en échec dans mon établissement. Hein, ça m'est encore arrivé cette semaine, c'est-à-dire que la sanction est un mal nécessaire. Hein. Donc, je m'organise, comme ça doit arriver assez souvent, et j'ai un dossier discipline qui me permet de me désinhiber quand j'ai à sanctionner, et puis d'avoir sous la main tout ce qui m'est utile pour pouvoir fonctionner. Durant les heures les plus chaudes, entre guillemets, comme disent les élèves, mon dossier de discipline est posé sur le bureau. Sinon, bon, il est dans mon sac, hein, je ne suis pas paranoïaque non plus. Donc, dans ce dossier, j'ai tout d'abord les fiches d'exclusion de cours pour être réactif si jamais, après avoir épuisé la procédure dont je parlais en tant que capitaine de mon cours, je me dis je dois préserver le groupe, hein, il n'y a pas de choix, je dois exclure. Donc, j'ai déjà les fiches pour exclure les élèves, que j'ai déjà signées, et j'ai déjà mis le motif, perturbation incessante du cours, qui me permet d'être très réactif. Je n'ai plus qu'à mettre le nom-prénom de l'élève. Ensuite, j'ai mes fiches de rapport, hein, pour pouvoir faire un rapport en fin d'heure. Et puis, j'ai des exercices selon le niveau de mes élèves, de façon à pouvoir, si j'exclus un élève, lui donner immédiatement du travail à faire, hein, qu'il n'ait pas rien à faire pendant son exclusion, de façon à pouvoir, quand je sanctionne un élève en fin d'heure, lui donner immédiatement un exercice en fonction de son niveau. Voilà, hein, ceci pour me libérer l'esprit des tâches de logistique, entre guillemets, hein, et pouvoir me dire, voilà, s'il y a un souci, je sais comment faire. Et bon, voilà, je me souviens aussi quand j'ai débuté d'heures où je me sentais, enfin d'instants où je me sentais très seul, où en plus il m'arrivait de m'énerver quand j'ai débuté en cours, alors que bon, s'énerver, c'est faire comprendre à l'élève qu'on est dépassé par lui finalement, hein. C'est pas lui dire attention, ça va chauffer. Donc il m'arrivait de m'énerver et en plus de dire mais puis ça suffit, vous sortez, et en plus de chercher dans mon sac pendant 3 minutes où j'avais mis mes fiches incidence qui terminaient de me discréditer devant les élèves. Alors, comment gérer un incident grave de cours, c'est-à-dire par exemple une insolence, une menace, etc. Je pense que c'est important d'y avoir réfléchi, notamment pour nos collègues qui sont néotitulaires, plutôt que de réagir dans le feu de l'action où on risque de commettre des maladresses. Donc, la première priorité face à un incident grave, c'est d'affirmer calmement que c'est grave et que ça donnera lieu à un rapport. On n'utilise pas encore le mot sanction parce que si un élève est sorti de ses gonds, il est potentiellement dangereux. Hein, et juste, en revanche, c'est important de mettre une parole d'adulte, de verbaliser ce qui vient de se passer est grave. Le deuxième point, justement, deuxième priorité, c'est de temporiser, ralentir le débit de parole, revenir au cours. Troisième point très important, mémoriser précisément les paroles de l'élève. Rien n'est pire pour le travail éducatif que de devoir faire, comme ça a pu m'arriver au début, une fiche incident en notant l'élève a été très insolent. Hein. Quand un élève est insolent, il y a une réaction naturelle de notre inconscient qui fait qu'on a tendance à refouler les mots qui ont été proférés. Hein, et on risque de ne pas se souvenir des mots précis qui ont été utilisés. Donc, rapidement, une fois que j'ai remis les élèves au travail, bon, j'ai toujours mon carnet note tout, hein, sur le bureau, puisque j'ai une très mauvaise mémoire, je mets les mots précis que l'élève a utilisés, hein, de façon à pouvoir revenir sur ces mots et puis à être plus efficace dans le travail éducatif. Et puis, quatrièmement, bien sûr, traiter, hein, voir le CPE, la CPE, voir les parents, voir l'élève, assurer le suivi d'une sanction, demander une fiche de suivi, chercher des solutions, etc. Point très important, hein, encore une fois, même si en début d'année c'est vrai que ça prend du temps, au final c'est moins d'énergie dépensée que si on ne traite pas les problèmes. Voilà, pour terminer, juste deux anecdotes pour souligner l'importance deux points dans cette procédure face à un incident grave de cours. Tout d'abord sur l'utilité qu'il y a à écrire précisément les mots qui ont été proférés par un élève insolent. L'année dernière, une élève me dit « Vous êtes un bouffon, monsieur ». Très bien, je prends mon dossier d'étude et je note « Vous êtes un bouffon, monsieur ». Et là, elle me dit « Faites un rapport, vous pouvez en parler à mon père, m'en bat les couilles ». Je ne ferme pas les guillemets, vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. Bon, Évidemment, l'élève s'est tue, elle a compris que tout ce qu'elle pouvait dire pouvait être retourné contre elle, et le soir, je n'ai pas manqué d'appeler le papa, qui était heureux d'apprendre que sa fille avait dit « Vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles ». L'élève s'est comporté d'une manière exemplaire dans mes cours jusqu'à la fin de l'année. Sa moyenne, notamment en rédaction, a progressé de 2 points. J'ai senti qu'on est... Alors, quand on reprend précisément les mots qui ont été utilisés par un élève, pourquoi ça marche mieux? Pourquoi ça fonctionne mieux? Déjà, parce que l'élève va avoir beaucoup moins tendance à nier les faits, hein, quand on lui sort précisément ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Ensuite, on est plus crédible devant les parents. Hein, et puis, on aide, bien sûr, l'élève à réfléchir sur ses agissements d'une manière précise. On est plus efficace dans le travail éducatif. Deuxième anecdote par laquelle je voudrais terminer, là cette fois sur l'importance de traiter après un problème. C'était une proviseure adjointe qui m'a donné une leçon un jour, ça devait être dans ma troisième année, où dans la classe dont j'étais professeur principal, une élève s'était fait tabasser dans la cour, mais littéralement arracher les cheveux par une camarade assez forte. Et j'étais monté sur mes grands chevaux. Bon, j'étais allé voir la proviseure adjointe en lui disant il faut un conseil de discipline. Et elle m'avait calmé. Je pense que c'était nécessaire de me calmer déjà. Je n'étais pas en état vraiment de faire le travail éducatif d'une manière efficace. Et fidèle à sa méthode, elle avait commencé par verbaliser devant les élèves que ce qui venait de se passer était grave, que ça allait donner lieu à des suites. C'est important, cette parole d'adulte, hein, de verbaliser ce qui vient de se passer grave, le verbaliser calmement. Et puis, elle avait demandé aux élèves, chacune de leur côté, de rédiger un texte pour expliquer comment c'était arrivé, qu'est-ce qui s'était passé. Il s'est avéré, grâce à sa méthode, que l'élève de la classe dont j'étais professeur principal avait auparavant dit à sa camarade, « Vu comme t'es grosse, t'es pas prête de te serrer un gars. » qui est une violence aussi. Nous avons pu faire le travail éducatif jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'élève qui a été violente physiquement, évidemment, a eu une sanction plus importante que sa camarade. C'est important de faire comprendre aux jeunes que la violence physique est plus grave que la violence verbale. C'est important déjà pour permettre une soupape en cas de risque de violence physique. Bon. Mais nous avons mis aussi une sanction à l'élève de la classe dont j'étais professeur principal pour lui faire comprendre que la violence verbale, c'est une violence. Et la preuve que le travail éducatif a été correctement fait, c'est que les élèves ne se sont plus cherchés par la suite. Il n'y a plus de problème entre elles et ça les a aidés à mûrir chacune de leur côté. Voilà, simplement en conclusion, hein, je voudrais rappeler que le travail éducatif, c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai qu'on a parfois des élèves qui ont un déclic arrivé en terminal bac, mais il y a des déclics, il y a de belles évolutions. Voilà, et je voulais simplement, à l'heure où leur fonction est menacée, souligner le rôle important des conseillères principales d'éducation, des conseillers principaux d'éducation, et nous encourager vraiment à travailler avec nos CPE pour chercher des solutions face aux élèves difficiles, face aux élèves en difficulté, et pour faire au mieux le travail pédagogique et améliorer la situation dans nos classes. Voilà, je vous remercie.
Oui, bonjour. Pensez-vous être utile d'associer l'élève à la sanction, c'est-à-dire d'évaluer avec lui le niveau de sanction, voire de lui proposer le choix d'une sanction?
Ça, c'est pour Sébastien.
Oui, alors j'avais même un collègue qui m'a appris quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant, un collègue de vente, ou avec, avec un élève qui avait été insupportable, il avait bavardé, donc il lui avait dit écoute, vraiment j'en peux plus, donc c'est un rapport, vas-y, tu l'écris. Et l'élève était bien sûr surpris et il lui a dit mais qu'est-ce que je mets dans motif, qu'est-ce que tu as fait, j'ai bavardé, vas-y mets-le. Donc il a écrit, et puis qu'est-ce que je mets comme sanction, qu'est-ce que tu penses mériter pour avoir perturbé le cours à plusieurs reprises, et l'élève avait dit une heure de colle, vas-y mets-le. Et c'était, après c'est vrai que les questions de tenue de classe sont vraiment fondamentalement c'est fondamentalement une science humaine, je pense qu'on peut même pas utiliser le mot science, mais en tout cas ça n'est absolument pas cartésien, action-réaction, tout ça bien sûr. Donc si on le sens, si le degré de transgression n'est pas trop grave, ça peut être bienvenu et ça peut être responsabilisant. Il y a aussi toute la question des travaux d'intérêt général qui peuvent être vraiment vraiment utiles si on a des agents qui sont prêts à jouer le jeu dans l'établissement, notamment pour les dégradations de matériel. Et là, ça peut être utile aussi de présenter aux élèves en début d'année les agents qui vont avoir, par exemple, à récupérer les tables si jamais les tables sont salies par des graffitis, et puis que la sanction d'intérêt général soit discutée entre l'agent et l'élève quand il y a une dégradation de matériel. Ce sont des pistes. Je dirais, la limite que je mettrais, c'est quand une transgression est grave, par exemple une insolence. Où il faut faire comprendre à l'élève que il a transgressé un point de droit, donc il y a un point de droit qui va le concerner. La sanction est prévue en la matière. C'est important d'avoir une réponse, je dirais, institutionnelle si le cas est grave, et de ne pas rentrer dans une discussion avec l'élève. Sinon, voilà, ça peut être évidemment responsabilisant.
Je voudrais revenir sur agression physique, agression verbale. Tout à l'heure, vous nous avez dit que l'agression physique, il faut faire comprendre à l'élève que c'est plus grave que l'agression verbale. On vient de vivre un incident en classe de 4e. Donc, deux élèves sur la cour se sont insultés. Et il y en a un qui a dit à l'autre, alors je suis désolée, je vais redire ce qu'a dit l'élève. Ta mère est une pute, c'est une chienne, tous les types lui passent dessus, moi le premier. Donc l'autre a réagi avec quand même pas mal de violence, de violence verbale, même ici au banc commun. Et à ce moment-là, il y a un troisième élève qui est intervenu, qui était ami de celui qui a insulté l'autre, qui a pris l'autre et qui lui a fait une clé de bras, qui lui a tordu le coude, enfin il a été il l'a mis par terre, etc. Donc il y a eu un conseil de discipline pour celui qui a tordu le bras de l'autre. Il a eu 48 heures d'exclusion avec l'intérêt général. J'ai rencontré la maman de celui qui a été blessé mercredi matin, mais elle me dit, je suis assez surprise quand même par rapport aux sanctions que vous avez données, parce que mon fils a été beaucoup plus blessé par l'agression verbale et ce que lui a dit l'autre élève que par la blessure physique. L'autre est aussi sanctionné, mais sans conseil de discipline, il a eu 24 heures d'exclusion avec TIG. Ma question, c'est finalement, oui, par rapport à la loi, l'agression physique est plus sanctionnée que l'agression verbale. Mais quand on entend les élèves, on se rend compte, et on a eu un autre exemple au premier trimestre en classe de seconde, on se rend compte que finalement, les élèves sont beaucoup plus touchés et blessés et se sentent rejetés. Il y a les conséquences à long terme sont beaucoup plus graves d'une agression verbale que d'une agression physique.
Alors je vous remercie de soulever ce point très important. Effectivement, chez beaucoup de nos élèves, il y a une égalité dans leur tête entre une violence verbale et une violence physique. C'est une réponse normale. Et je pense qu'en tant qu'adulte éducateur, on a à leur faire comprendre qu'une violence verbale c'est grave, qu'une violence physique c'est plus grave. Pourquoi ? Parce que bien souvent la violence verbale intervient comme une soupape pour éviter la violence physique. Donc si on sanctionne de la même façon violence verbale et violence physique, on s'interdit ce système de soupape et les élèves à la limite vont se dire bon bah tant qu'à faire, autant lui exploser la tête puisque j'aurai la même sanction que si j'ai une violence physique, que si je fais une violence verbale. Voilà. Alors après, bon, ça dépend de la culture d'établissement. Nous, dès qu'il y a une bagarre, nous ne pouvons pas provoquer un conseil de discipline, sinon tous les jours, trop souvent, nous déciderions des conseils de discipline. Quand un élève est blessé, là, il y a conseil de discipline. Voilà. Et il y a comme ça un certain nombre de points sur lesquels nous nous trouvons, c'est vrai, en désaccord avec les élèves et parfois avec les familles, mais dans le cadre desquels nous avons à tenir bon en tant qu'éducateurs responsables dans l'intérêt des jeunes et pour les aider à grandir.
Oui, je suis d'un avis légèrement différent en tant que spécialiste de la violence depuis maintenant 40 ans à peu près. La plupart des crimes de sang qui se passent normaux dans les bistrots entre 22h et 24h ont pour point de départ, donc d'une part l'alcoolisme, mais en général l'agression verbale. Le mot en trop. C'est un peu ça que j'avais mis d'ailleurs Zidane, parce que Zidane a répliqué d'une manière extrêmement bénigne. C'était un faux coup de tête qu'il a donné à Materazzi, mais l'insulte verbale l'avait mis hors de ses gonds. Moi, je serais d'avis, à l'intérieur de l'établissement, de sanctionner de la même manière. C'est vraiment pareil, parce que je pense que justement les agressions verbales peuvent déclencher sur des agressions physiques extrêmement dures. Justement, on l'a vu dans certains faits divers récents. Donc, je n'adopterai pas, à l'intérieur de l'établissement, tant que les gens ça ne vous graisse pas avec des balles de baseball ou des couteaux, parce qu'en fait ils ont aussi l'habitude de se battre. Ils sont tous redoutables, ils ont tous des techniques de body, combat corporel, etc. Je sanctionnerai pareil, parce que je trouve qu'effectivement, dans le contexte contemporain, les agressions verbales sont souvent extrêmement dangereuses. Et déclenche des choses. Ensuite, c'est des règlements de compte en fondement à l'extérieur, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est un point de vue personnel.
Alors, je respecte tout à fait vos points de vue. Juste par rapport à cette question de la violence verbale, évidemment, en traitant jusqu'au bout, on s'aperçoit parfois que derrière une violence verbale, il y a eu aussi auparavant une pression mise. Et justement, j'ai eu la semaine dernière à régler le cas de deux élèves de la classe dont je suis professeur principal qui se sont battus à la cantine. Et celui qui s'est fait taper avait commencé par dire à l'autre « fils de pute ». En essayant de traiter ce qui s'est passé jusqu'au bout, on s'est aperçu que celui qui a dit « fils de pute » cette fois s'était retrouvé coincé parce qu'il avait raconté à ses camarades qu'il faisait partie d'une équipe de football prestigieuse, qu'il avait été contacté, etc. Et ses camarades se sont aperçus que c'était faux. Et ils se sont, à la cantine, tous moqués de lui. Il y avait des filles présentes. Voilà. Et donc, comme l'élève qui a été violent physiquement était quelqu'un d'assez responsable, j'ai pu en parler un peu avec lui de ce qui s'était passé et j'ai essayé de lui faire entendre que son camarade qui lui avait dit fils de pute, il était dos au mur d'une certaine façon. Il ne répondait plus aux plaisanteries et il continuait de se moquer autour de lui. Il y avait des filles présentes, c'était humiliant. Et j'ai essayé de voir avec lui que quand il a dit fils de pute, il ne voulait pas dire j'ai vu ta maman hier sur le trottoir. Il voulait dire je suis en grosse difficulté. Voilà, c'était. Je me suis. Je me suis souvenu d'une formation que nous avions eue dans l'Académie de Créteil qui était très utile avec une psychanalyste sur la question de la violence. Et elle nous avait dit, c'était Sylvie Pouillou, elle nous avait dit quand vous prenez une insulte, la première chose c'est de vous dire cette insulte n'est pas destinée à ma personne, l'élève ne me connaît pas, hein, donc de ne pas rentrer dans ce jeu, et déjà en restant calme on déstabilise plutôt l'élève qui voulait nous déstabiliser. C'est des raisons qui lui appartiennent qui font qu'il va dire à un prof bouffon, etc. Et voilà, je me suis un peu souvenu de ça en parlant avec l'élève, voilà, en discutant avec lui de pourquoi son camarade avait utilisé une insulte. Donc même derrière la violence verbale, parfois il y a une pression qui a été mise. Traiter jusqu'au bout, c'est vrai que ça peut prendre du temps aussi.
Oui, alors là j'ajoute un commentaire parce que c'est ça ce que j'avais dit dans d'autres interventions. Je crois qu'en fait, en termes de violence verbale, ce qu'il faut distinguer, c'est entre les vraies violences verbales, c'est-à-dire le mot en trop qui déclenche la violence physique, celle qui touche juste. En général, j'ai dit aussi dans les bistrots, mais en matière de violence conjugale, domestique, c'est aussi le mot en trop qui déclenche les choses. Donc là, ça relève de l'éducation civique. Et il faut aussi leur apprendre le sens des mots. Ça c'est très important de leur apprendre, parce qu'ils seraient tous enculés par exemple, hein, et c'est pas grave pour eux, simplement il faut leur apprendre que s'ils disent enculé à un taxi marseillais, ils vont se faire crever, hein, ils vont littéralement se faire crever. Et donc il y a des cours de la grammaire des insultes, alors moi c'est une chose que je connais très bien, je suis dans le cadre des études d'agro, la grammaire des insultes est une chose fabuleuse, parce que vous avez des insultes qui sont pas graves, avec des codifications très bien organisées dans toutes les sociétés pour monter dans la grammaire des insultes, et puis brusquement, vous avez le mot qu'il ne faut jamais dire. Hein, le mot qu'il ne faut jamais dire. Hein. Si quand un Corse vous dit « Monsieur, ça, ça ne se dit pas », vous êtes à deux doigts de mourir. Hein.
Oui, alors juste sur ce point, avant de vous laisser la parole, excusez-moi, j'ai monté un cours de politesse que j'utilise en éducation civique et en heure de vie de classe, sous forme de questionnaire choix multiples, avec à chaque fois une réponse aberrante pour que ce soit un peu plus drôle. Et les élèves sont vraiment demandeurs de ce cours. Je pense par exemple à l'une des questions qui est « Comment s'adresse-t-on à un policier ?» Donc parmi les propositions de réponse, j'ai mis « sale keuf » puisque je sais bien qu'il faut percer l'abcès et que certains vont avoir plutôt des insultes de ce type en tête par rapport à la question. Voilà, et je m'aperçois que pour beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas que s'ils veulent qu'un contact avec un policier, se donner plus de chances que ça se passe bien, eh bien c'est monsieur l'agent, l'expression qu'on utilise, voilà, avec un policier. Voilà, ça peut permettre, voilà, s'ils veulent que ça se passe bien, qu'ils connaissent déjà le terme usuel. Maintenant, par expérience, je sais aussi que les formations de politesse pourraient être données vis-à-vis de certains policiers aussi. Et des enseignants.
Oui, des enseignants.
Voilà, je suis surveillante et je sais que nous, les surveillants, nous, que ce soit dans la cour ou dans une salle d'études, nous ne sommes pas toujours en situation de faire de la psychologie, si ce n'est de la psychologie de bas étage. Donc on n'a pas toujours le temps d'appliquer cette règle action-réaction, vous voyez, d'une façon plus ou moins intelligente. Ce que en vous écoutant, monsieur, vous avez dit que vous vous occupez des problèmes de la violence depuis 40 ans. Je pense que depuis 40 ans, certaines choses ont changé, et surtout, les codes. Parce qu'il y a de la logique, et puis nous sommes, je pense que les autres surveillants seront d'accord avec moi, ils nous rappellent à l'ordre quand ils nous disent « c'est pas juste » et nous sentons quelque part que l'élève, s'il n'a pas tout à fait raison, il n'a pas entièrement tort. Parce que, comme dans la chanson d'Alain Souchon qui chantait, qui parlait de la récré, voilà, il y avait des choses, il y avait cette action-réaction rapide, juste.
juste, après on peut se mettre d'accord sur le sens du mot juste, mais voilà, quelque chose d'inadmissible a été commis, et l'autre a réagi. Voilà, tu m'as insulté, je t'ai cassé la figure, je sais pas. Mais et après, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, avec le, nous sommes partout, nous les surveillants, nous sommes enfin suffisamment nombreux pour avoir l'œil sur tout le monde. Et cette action-réaction n'a plus lieu d'être. Ou voilà, il y a plus des comment dire. Les élèves sont surveillés, donc d'une façon saine, je mets saine entre guillemets, ne peut plus avoir lieu. Voilà, cette relation entre les deux.
Attendez, je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que... Entre les deux, entre qui entre...
Ça veut dire, on m'a insulté, je lui réponds, ou je lui casse la figure.
Donc vous dites
qu'il l'a bien mérité.
C'est plus possible, vous dites?
Ben, c'est plus possible. Je pense, enfin, je me fais l'avocat du diable. C'est plus possible, parce qu'il y a un surveillant qui dit, voilà, il empêche la réaction, en fait.
Je pense, en fait, que...
Après, le problème de la justice qui se pose, quand ils disent c'est pas juste, c'est pas juste, moi j'ai l'habitude de répondre, le monde est injuste, et voilà, c'est comme ça.
Oui.
Après, quand il y a des discussions à la gomme, et le bon Dieu, je dis le bon Dieu, il n'est pas juste, il est miséricordieux, et encore, voilà, vous voyez, mais après, c'est...
Oui, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge à ce moment-là. Non, alors là, moi je vais vous faire état quand même de bien que j'enseigne pas en collège, mais j'ai quand même passé 3 ans dans un collège, il faut dire dans des conditions privilégiées, à faire des initiations à la philosophie à des collégiens, où justement je leur apprenais la complexité d'utiliser le mot juste, par exemple. Et je peux vous dire que ça marchait très bien, parce que une des choses que je mets en cause, et quand je fais des conférences dans les lycées sur qu'est-ce qui est juste, je peux vous dire que si on se fie à l'idée de la justice qu'ont les collégiens et les lycéens aujourd'hui, c'est absolument épouvantable. Et vous partez dans des simplismes, et passez-moi l'expression, des conneries qui sont monumentales. Hein, je veux dire, ils ont une vision qui est alimentée en gros par leur psychologie personnelle, et puis toutes les âneries qu'on lit dans les médias. Hein, en gros, de manière la plus bête qui soit. Je veux dire, donc ils ont tout le temps à la bouche le mot « c'est pas juste », mais c'est pas juste, en gros, ça veut dire ça me cause du tort à moi du point de vue de ma subjectivité. Donc moi, ce que je suis favorable à la surveillance. C'est-à-dire que leur faire comprendre que l'école, par exemple, c'est pas un endroit où on règle ses comptes. Tu vas avoir ta gueule à la récré, oui, je veux bien, mais bon, c'est quand même pas non plus un endroit où les choses doivent se régler, c'est pas la récré. La récré, elle est dans l'école, et normalement, la récré, elle doit être pacifique. Donc moi, je suis pour la surveillance, je crois qu'il faut leur rappeler que Dieu voit tout, sait tout, entend tout, et que les caméras de surveillance aussi savent tout, voient tout, entend tout, et qu'il faut qu'ils se conduisent correctement. Et que pour ce qui est de la justice, là, je suis désolé, il faut leur apprendre que c'est quelque chose de joliment compliqué, la question de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Hein, c'est-à-dire, mais si on commence à discuter, comme vous allez le faire sympathiquement, vous n'en sortirez pas. Hein.
Oui, je peux juste souligner le rôle fondamental des surveillants à travers une discussion que nous avions eue en début d'année avec notre chef d'établissement, où certains collègues voulaient que les billets d'absence, on puisse les mettre dans une urne simplement à la récréation et que ce ne soit plus les élèves qu'ils ne soient plus ramassés par des surveillants à chaque heure. Et le chef d'établissement nous avait répondu que c'était important cette présence humaine qui circule dans l'établissement. Et la preuve qu'il avait raison, c'est que dans l'incident dont je parlais, où je me suis retrouvé dans l'obscurité, 2 élèves se sont battus, etc., quand j'ai demandé aux élèves de sortir en étant accompagnés, parce que je les excluais de cours, les 2 élèves qui s'étaient battus, celui qui avait été la victime dans la bagarre ne voulait pas sortir, en fait. Alors que bon, c'était important pour que le cours puisse reprendre, que les deux élèves qui s'étaient battus puissent sortir. Et c'est le surveillant qui passait justement à ce moment-là pour ramasser le billet qui m'a sorti d'affaire. Je voudrais juste revenir sur une expression qu'on entend parfois, notamment par rapport aux établissements très difficiles, avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est aujourd'hui, chez les jeunes, il n'y a plus de règles. s'il n'y avait plus de règles, il n'y aurait plus de cours du tout. Hein. C'est-à-dire que on est dans mon lycée, il y a 800 élèves, on est à peu près 80 adultes. Ils sont 10 fois plus nombreux que nous. S'ils voulaient, ils nous mangeraient. Il se passe toujours quelque chose quand un adulte responsable, qu'il soit surveillant, qu'il soit enseignant, parle calmement à un élève sans aboyer, en le regardant dans les yeux, pour peu que l'élève n'ait plus son public. Hein. Évidemment, il est important, quand il y a eu un incident, d'isoler un élève ou de lui demander à la fin de l'heure simplement de rester, de ne pas intervenir devant son public. Il se passe quelque chose et les élèves, dans la grande majorité des cas, entendent hein, quand on rappelle la règle, pour peu que le rappel à la règle soit crédibilisé par une sanction. Hein, quand la transgression a été importante notamment, parfois la parole ne suffit pas. Hein. Voilà.
Et pour peu aussi que la règle soit une règle clairement établie, reconnue, et pas non plus une règle, pas une usine à gaz, non plus, que les fondamentaux soient bien posés, bien partagés, bien connus pour tout le monde.
Oui, moi, dans le quotidien du collège et du lycée, il y a une question que je me pose souvent. C'est finalement les sanctions, quand elles sont plus efficaces, une heure de colle, ça fait plus rien. Demander de monter en silence un escalier à un certain nombre de classes, ça devient un challenge épouvantable. Ça peut devenir un cauchemar au niveau du niveau sonore. Donc, que faire quand ça glisse sur eux?
Bon, on va répondre chacun à notre tour hein, là-dessus. Quand ça glisse, j'aurais deux réponses. C'est peut-être qu'il faut modifier certaines sanctions. Je pense que, je ne sais pas ce qu'il en est pour les heures de colle, mais je pense certains exercices à faire qui peuvent les intéresser et qui peuvent leur prendre du temps. Hein, et donc, tout ce qui leur prend du temps est important. Leur bouffer du temps, ça c'est une manière de les sanctionner par rapport aux autres activités innombrables qu'ils ont. Et puis peut-être commencer beaucoup en amont. Hein, je veux dire, alors là, c'est le problème aussi, ça pose un problème que je ne me dissimule pas, c'est le problème du turnover des élèves. Hein. S'ils changent tout le temps d'établissement, commencer en amont, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais s'il y a une population relativement stable, je crois que le fait qu'un certain nombre de principes soient inculqués très très tôt, ça joue. Mais ça implique aussi qu'il y ait parmi les enseignants et au niveau de la communauté enseignante, enseignants, surveillants, directeurs, etc., qui a un consensus très large sur les règles qu'on applique. Hein, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il y ait un petit nombre de règles qui sont absolument appliquées. C'est-à-dire parce que l'idée ne vient même pas qu'elles ne le soient pas. C'est-à-dire j'étais dans un lycée de Marseille, qui est un lycée libre aussi, un lycée privé. Après ma conférence, c'était immense, hein, la salle de conférence. Le proviseur a dit vous sortez par rangée. Hein, et c'est l'habitude, c'est comme ça, vous sortez par rangée et il n'y a pas le désordre. Je vous dis toujours, pas de désordre. Ça s'est très bien passé, mais visiblement, c'était une habitude dans la maison. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe et on la répétait tout le temps, fois qu'il fallait. Mais aussi, on peut expliquer à des gens que sortir par rangée, c'est beaucoup plus pratique que se précipiter dans une porte où il y a deux unités de passage. Hein, je veux dire, ouais.
Alors, votre question en soulève trois autres. D'abord, alors bon, demander aux élèves de monter en silence dans les escaliers. Vous avez de la chance d'en être à ce niveau de problématique. Chez nous, dans certaines heures, c'est déjà leur demander d'arrêter de nous déchirer les oreilles pendant les heures de cours. Non, bon, j'exagère, mais je veux dire, le premier point, c'est la question. Alors, encore une fois, moi, je suis complètement modeste, je ne connais pas du tout votre culture d'établissement, ce que vous pouvez exiger, etc. Il faut toujours tirer nos élèves vers le haut. Si vous pouvez l'exiger, qu'ils montent en silence, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on a une réflexion à avoir sur... en fonction de où en sont nos élèves, et c'est vrai que la jeunesse évolue, a évolué, quel est le palier juste au-dessus que nous pouvons exiger pour... Voilà, bon, je vous donne un exemple. Hein, alors que j'avais été bousculé par un élève, sa professeure qui était juste à côté lui a dit tu présentes des excuses à Monsieur Clerc. Bon, visiblement c'était un élève bon très 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 dur. Au bout d'un certain temps, il a lâché excusez-moi. Et la collègue lui a dit excusez-moi Monsieur. Et bon, là, on était un peu, on s'était enfermé nous-mêmes d'une certaine façon. Il faut sentir aussi à quel degré d'évolution en est un élève et essayer de le tirer vers le degré juste au-dessus et après être relativement réaliste. Savoir cibler, je pense aussi à cette expérience que j'ai eue à travers un projet pluridisciplinaire d'échange avec une classe d'un lycée anglais. Et j'avais trouvé ça intéressant dans ce lycée où il y avait un certain pragmatisme. Et en fait, ils avaient choisi d'avoir le moins de règles possibles, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une règle, il fallait que la transgression perturbe vraiment le fonctionnement du lycée. En revanche, quand ils avaient posé une règle, vraiment ça tombait. C'est-à-dire un chewing-gum, ils estimaient que ça posait problème par rapport aux agents pour nettoyer, etc. Un chewing-gum, c'était 3 jours d'exclusion. En revanche, si une élève arrivait avec le voile, ils estimaient que bon, c'était plutôt les élèves les plus sérieuses qui arrivaient avec le voile, qu'elles posaient pas de problème dans les cours. Il y avait aucun souci là-dessus. Bon, il y avait donc voilà, première réflexion, la question de adapter le niveau d'exigence. La deuxième question sous-tendue, c'est celle d'un comportement transgressif collectif, et c'est la question de la sanction collective. Alors, on ne peut rien faire en France juridiquement, c'est comme ça, on peut le regretter, et je suis le premier à réclamer un débat là-dessus, mais on ne peut rien faire d'un point de vue collectif. La sanction collective est interdite. En revanche, ce dont je me suis aperçu quand on a été confronté à un comportement collectif transgressif, par exemple des bruits d'animaux dans une classe ou des insultes racistes dans une autre, c'est qu'on peut agir sur les meneurs et sur le premier qui. C'est-à-dire qu'on annonce clairement la règle en disant que c'est une décision collective de toute l'équipe pédagogique, par exemple, et du CPE, de la CPE. Le premier qui fait du bruit, par exemple, en montant dans les escaliers, le premier qui se laisse aller à un bruit d'animal ou à une insulte raciste, aura et puis une sanction assez forte. Par exemple, une journée d'exclusion, un avertissement, on voit les parents, etc. Et on s'aperçoit que bien souvent, quand on fait ça, qu'on a pu cibler comme ça sur une personne, tout en restant juste, on avait annoncé la règle, le premier qui transgresse, eh bien on est efficace par rapport à l'ensemble du groupe. Voilà. Et puis la dernière question qui était sous-tendue par le problème que vous évoquiez, c'est celle de l'échelle des sanctions, de la procédure des sanctions. Et dans mon établissement jusqu'ici, l'une des choses dont nous souffrions, c'est que avec des élèves qui perturbaient beaucoup le cours, on commençait par mettre une sanction, des exercices à faire pour la fois suivante. Après, on réclamait une journée d'exclusion parce que, à nouveau, parce qu'il y avait eu récidive. Après, éventuellement, si l'élève vraiment perturbait beaucoup le cours, commission vie scolaire, on discutait avec l'élève, etc. Et puis, pouf, ça s'arrêtait, l'élève continuait, bon, on retombait dans une... Là, on a la chance cette année d'avoir un chef d'établissement qui va jusqu'au bout des procédures. C'est-à-dire qu'il y a un peu du donnant-donnant avec les enseignants, c'est-à-dire que ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse le travail éducatif jusqu'au bout, qu'on fasse tout pour essayer de sauver un élève, une élève. C'est-à-dire qu'on respecte cette échelle de sanctions. D'abord, éventuellement des exercices supplémentaires ou des heures de colle. Ensuite, lui décide d'une journée d'exclusion. Ensuite, commission vie scolaire. Mais si ça continue, et là j'ai eu le cas la semaine dernière, un élève qui perturbe vraiment incessamment les cours, eh bien c'est conseil de discipline. Donc qu'il y ait une procédure de sanction, qu'on donne vraiment sa chance à l'élève de modifier son comportement, mais que nous, adultes, nous allions jusqu'au bout de cette procédure de sanction.
Bonjour.
Bonjour.
Il me paraît nécessaire qu'avant d'établir une échelle de sanction pour ce genre de choses, il soit nécessaire que chaque professeur prenne la peine d'exiger ça d'une classe. Je vois avec ma classe, la classe dont je suis professeur principal, on leur demande de monter en silence, alors ils essayent de le faire, mais ils voient toutes les classes derrière arriver, enfin pas toutes, j'exagère, mais une bonne partie des classes arriver et faire du bruit. Par exemple, également, on leur demande de ne pas sortir lors des intercours de leur classe. Alors, il y en a quelques-uns qui sortent, on leur dit « vous n'avez pas le droit de sortir, vous rentrez ». Mais ils se rendent compte qu'en fait, toutes les classes qui sont à côté, parce qu'ils sont au bout du couloir, toutes les classes qui sont à côté font un bruit pas possible et se bousculent dans les couloirs alors qu'eux n'ont pas le droit de sortir. Et justement, ça rejoint l'acceptabilité de la sanction. Il faut qu'elle prenne un sens... Je pense qu'il faut qu'il y ait cohésion au niveau de l'équipe.
Vous avez entièrement raison, mais c'est ce que j'ai souligné plusieurs fois, je redis encore d'autres cas, il faut qu'il y ait un petit nombre de règles, moi je suis plutôt du côté anglais, hein, il faut qu'il y ait un petit nombre de règles qui sont réellement partagées par la communauté des enseignants, et à partir de là, ces règles doivent se appliquer, c'est beaucoup plus facile. Et alors ça me mènera à autre chose, parce que c'est quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, il y a 10 jours, à Issy-les-Moulineaux, une intervention que je faisais devant les lycéens. À la fin, la question devant les lycéens, il y avait des profs aussi. La question qui s'est posée, c'était « Oui, monsieur, mais comment ça se fait que les profs à la cantine, ils nous passent devant ?» Alors, visiblement, c'est des grosses questions. Alors moi, j'ai dit « Mais c'est absolument normal que les profs vous passent devant. » « Ouais, mais parce qu'il y a une autorité des profs. Ouais, mais ils ne sont pas en classe. » Alors là, j'aurais dit, écoutez, et savoir avec... Il y a une tendance aujourd'hui chez les enfants à croire que la seule règle qui compte, c'est celle de la classe. Il faut leur faire comprendre que la règle qui compte, c'est celle de l'établissement, de la communauté. C'est-à-dire, je leur ai dit, quand vous êtes au métro, si votre prof est bien, il doit faire la queue comme tout le monde. Si vous êtes poli et courtois, peut-être que vous pourrez vous effacer devant lui, j'en doute. Mais là, vous serez fondé à demander la reconnaissance de l'égalité de tout un chacun. Mais lorsque vous passez les grilles de l'établissement, vous reconnaissez des règles de l'établissement, et à ce moment-là, il y a autorité des professeurs. Cette autorité implique qu'ils aient certains privilèges. Il est absolument normal et admissible qu'ils passent avant vous à la cantine, point à la ligne, et parce qu'il n'y a pas de discipline seulement dans la classe. Et je crois que c'est une chose... Alors du coup, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus, hein, parce que vous aurez effectivement toujours des profs qui considéreront que c'est plus démocratique si tout le monde est à la queue comme tout le monde au réfectoire. Moi, je pense qu'il y a quand même une autorité des professeurs et que, ne serait-ce que pour des raisons symboliques, elle doit continuer à se manifester, y compris au réfectoire.
Alors, je suis vraiment pour des journées d'échange sur les difficultés de l'établissement, qu'on puisse prendre le temps entre collègues, justement pour rétablir de la cohésion, notamment par rapport aux règles. Un seul exemple, j'avais lâché pour ceux qui étaient, quand je croisais des élèves dans les couloirs qui avaient leur casquette sur la tête, de verbaliser la casquette, pas dans l'établissement. Et c'est lors d'une telle journée, voilà, que j'ai entendu des collègues se plaindre que, voilà, ils avaient l'impression de se battre un peu contre des moulins parce qu'ils étaient les seuls à réclamer que les élèves... Et voilà, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est important que nous ayons une cohésion d'adultes. Donc je crois vraiment en l'utilité de ces journées où, voilà, on pose les choses et puis on rétablit de la cohésion. Mais je dirais, là aussi, dans une certaine mesure, il faut être réaliste. Nous ne parviendrons jamais à avoir les mêmes exigences, tout à fait les mêmes exigences d'un collègue à l'autre. Et parfois, il faut aussi savoir dire aux élèves, eh bien oui, je ne suis pas Madame un tel, ou bien oui, je ne suis pas Monsieur un tel. Et enfin, je pense à cette question toute bête, hein, du chewing-gum, où parfois j'ai des élèves, avec Madame un tel, on peut mâcher le chewing-gum en cours. Est-ce que je suis Madame un tel? Regardez bien, est-ce que je suis Madame un tel? Nous avons aussi à leur apprendre une certaine capacité d'adaptation, au sens où ça n'est pas leur mentir, puisque plus tard, quand ils seront dans le milieu professionnel, en fonction du cadre avec lequel ils travailleront, ils verront aussi que les règles diffèrent. Donc voilà, dans une certaine mesure, il faut aussi être réaliste et accepter qu'il y ait quelques différences.
Oui, alors... Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez des chaînes de sanctions. Nous sommes au Vésinet, on n'a pas du tout le même public que Blanc-Ménil. Et les problèmes de discipline que l'on peut rencontrer au sein de l'établissement, hormis effectivement les petits problèmes, je dirais, dans la cour de récréation, ce sont des problèmes un petit peu plus complexes, compliqués par rapport aux structures familiales ou même au vécu de chaque élève. Et ma question est suivante. Qu'est-ce que nous, en tant qu'éducateurs, on peut faire lorsqu'on a utilisé tout notre panel de sanctions? et qu'on arrive finalement à un problème où à la fin, voilà, la solution, je dirais, finale serait l'exclusion définitive d'un élève, mais malgré tout, on sait qu'en tant qu'éducateur, c'est pas la solution la plus, je dirais, constructive pour lui. Et la question, c'est faut-il préserver un élève ou faut-il préserver un groupe classe ou une unité ?
Oui, je crois qu'arrivé à un moment, quand on a tendu la main longuement à un élève pour qu'il modifie son comportement et qu'il puisse rejoindre le fonctionnement global du groupe et qu'il continue d'empêcher le cours d'avancer, nous avons une responsabilité aussi par rapport à la majorité des élèves qui viennent dans l'établissement pour réussir dans leur examen, pour être lancés d'une manière favorable par rapport à leur vie. Et je crois que cette responsabilité fait que, oui, parfois, il faut aller jusqu'au bout et accepter de se séparer d'un élève. Alors, au passage, je pense que l'exclusion définitive, encore une fois, quand on a respecté toute la procédure, qu'on a vraiment laissé sa chance à un élève, peut avoir un effet bénéfique. Déjà, un conseil de discipline, c'est un conseil, c'est-à-dire qu'il y a discussion. Hein. Et parfois, quand l'élève sent que ce qui est en jeu, c'est son exclusion définitive de l'établissement, il est plus réceptif aux paroles d'adultes. On lui fait davantage comprendre qu'il a franchi une ligne blanche que quand, pour la énième fois, on se contente de paroles, hein, quand c'est crédibilisé par le conseil de discipline. J'ai constaté à plusieurs reprises que des élèves arrivant dans mon lycée parce qu'ils ont été exclus d'un autre établissement, ont complètement modifié leur comportement. Et je suis parfois très surpris d'apprendre au hasard d'une conversation, parce que vraiment je demande à ne pas être renseigné sur le passé d'un élève, je veux laisser sa chance à un élève de redémarrer les compteurs à zéro. Mais d'apprendre au hasard d'une conversation qu'un élève a été violent envers un collègue dans son établissement précédent. Voilà, et je suis surpris. Donc, il s'est passé quelque chose. On les a coupés de leur quartier, le temps de transport est beaucoup plus important. En même temps, ils sont à nouveau scolarisés. Donc, des fois, ça aide à les récupérer. On peut avoir aussi une efficacité pédagogique du conseil de discipline, à condition que, voilà, on ait tout fait aussi pour que l'élève soit rescolarisé. Maintenant, je voudrais pas non plus esquiver votre question, et j'ai le cas actuellement d'une élève qui a épuisé toute la procédure, qui vraiment a de très grosses difficultés avec l'ordre, et qui va aller là en conseil de discipline. Je me trouve bien démuni par rapport à cet élève, c'est-à-dire que concrètement, l'une des choses qu'on lui a le plus reproché, c'est qu'elle arrive en retard. Et dans mon établissement, depuis 3 ans, on a la chance d'avoir mis en place une règle assez efficace qui est pas plus de 5 minutes de retard. Sinon, on n'est pas accepté en cours. Mais elle arrive en retard de 25 minutes, mais elle refuse de ne pas entrer dans le cours. Et physiquement, elle va s'asseoir dans le cours. Et en fait, j'ai compris, enfin, je pense avoir compris que ce qui se joue chez cette gamine, c'est un refus complet de l'exclusion, hein, un problème très important avec l'exclusion. Donc le problème relève de la psychologie. Hein. Et voir un spécialiste, autant, je dirais, pour nous, ça paraît normal, on sait que ça n'est pas que pour les fous, et c'est pour nous tous quand on va mal. Pour nos élèves, pour beaucoup, quand on leur parle d'un spécialiste, il y a une réaction qui fait « je suis pas fou », etc. Ça pose vraiment problème. C'est-à-dire que, alors c'est pour ça que je suis vraiment pour que dans les commissions de vie scolaire, l'assistante sociale soit si possible présente ou l'infirmière de l'établissement, qu'on essaie de... Parfois, ça passe avec un éducateur quand on a pu faire une procédure pour mise en danger par rapport à un élève et qu'il se retrouve avec un éducateur. Éducateur, ça passe mieux que psy. Et en même temps, il y a des messages qui passent quand même. Voilà, j'avoue être démuni par rapport à cette question d'un certain nombre de jeunes où on sent que vraiment c'est un problème psychologique à la base. Et bien sûr, on ne peut pas forcer quelqu'un à parler devant un psy. On peut le forcer à y aller, mais c'est déjà très difficile, on le sait, hein, d'évoluer. Quand on fait le choix d'évoluer avec les adolescents, il y a souvent ce problème que il faut du temps avant qu'ils fassent le choix d'évoluer.
Moi, j'ajouterais que, en un sens, dans votre question, et dans le, il y a les éléments de la réponse, hein, c'est-à-dire c'est une question d'évaluation de la nuisance pour le groupe, pour la collectivité éventuellement, et la nuisance pour l'élève lui-même. Alors, quand je suppose que si votre élève, le cas que je découvre là, dans ce que dit Sébastien Clerc, si votre élève est considéré comme original ou un peu dérangé par les autres et que donc son comportement ne constitue pas une nuisance, mais juste une bizarrerie très forte, si ça ne met pas en cause l'ensemble de la discipline, à ce moment-là, il faut peser la question individuelle. Si la nuisance pour le groupe est grave, et je pense surtout au cas de nuisance collective, moi, curieusement, parce que j'ai eu une expérience, et vous pouvez la regarder sur Internet, c'est sur notre site, Université Tous les Savoirs au lycée, c'est la conférence que j'ai faite sur la violence peut-être légitime à Alfortville, devant une bande de drôles d'oiseaux. Il paraît que la vidéo est assez cocasse. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, au fond de la salle, une dizaine de types à la redresse, hein, je dirais, qui étaient ceux qui avaient agressé la jeune fille, la jeune femme pendant les manifs du CPE, qui, leur photo était parue dans Paris Match. C'était pas du tout peut-être des chiens perdus sans collier, mais c'était déjà des gros chiens, hein, je veux vous dire. Et là, le problème, c'était de les dégager, hein, ces gens-là. Absolument de les dégager, ils pourrissaient la vie de l'établissement, alors que l'ensemble des autres étaient tout à fait bien. Hein, mais c'était eux les caïds, c'était les caïds de l'établissement. La proviseur était terrorisée. Hein, ils nous ont volé un micro, ils ont insulté l'improviseur, moi je pensais qu'ils allaient tout nous voler, hein, de toute manière. Là le problème, c'est qu'il n'y a pas de sentiment à faire, hein, c'est pas notre problème éducatif. Si on arrive à identifier quelqu'un comme original et qu'il ne soit pas pour autant stigmatisé, etc., qu'il y ait des problèmes personnels, voilà, encore une fois, il faut peser ce qu'il en est de la nuisance effective. Moi, j'ai eu pendant 10 ans, dans une université, un type qui sortait à peu près tous les quarts d'heure pour aller se laver la main. Il était visiblement dérangé. Mes collègues l'excluaient de leur cours. Moi, pas. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'était les notes qu'il prenait. Parce qu'il reprenait absolument impavidement à l'endroit où il était resté avant d'aller se laver la main. Et puis, ça devait faire un sale mignondi, absolument invraisemblable. Mais il était juste un type dérangé, quoi. Je veux dire, il n'avait pas une nuisance. Enfin, c'était l'université. Hein. Oui. Attendez, on vous apporte, pour que vous ayez.
Oui, voilà, moi j'ai une petite question toute concrète. La montée en classe, plus souvent qu'avant, je trouve que les élèves se bousculent. Et donc, voilà, comment on gère ça? Par exemple, l'autre jour, un élève a bousculé un autre élève et ils sont tombés tous les deux. Et moi, en fait, dans la foulée, j'ai pris un coup de pied dans le tibia. Donc ça m'a fait très mal, donc j'ai réagi peut-être trop violemment, et voilà, j'ai mis un mot sur le carnet des deux, l'un m'a dit mais c'est pas moi, ma faute, c'est lui qui m'a poussé, alors je trouve ça très injuste d'avoir un mot sur le carnet, donc là, voilà, j'ai un petit peu hurlé au départ, après je me suis calmée, j'ai mis un mot dans les deux carnets, donc je ne sais pas si j'ai bien géré la crise.
Alors, qu'en pense le docteur Claire?
Ce n'est évidemment pas moi qui est tous les jours à faire des choix dans des situations qui sont complexes comme ça et qui commet des erreurs. Ce n'est évidemment pas à moi de dire si vous avez bien géré ou pas. Hein. La montée en classe, mis à part la règle consistant à être toujours derrière pour pouvoir observer ce qui se passe et que les élèves sentent le regard, il n'y a pas de miracle par rapport à cet instant qui est effectivement délicat. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que et ce qu'il faut que les élèves sachent, c'est que un coup même indirect porté aux agents représentants de l'État que nous sommes, c'est passible très durement par la loi. Hein. Et je le rappelle aux élèves en situation, c'est-à-dire que vous auriez le droit d'aller porter plainte hein, par rapport à ce qui s'est passé. J'ai eu le cas il y a 2 semaines où il y avait à cause d'un match de football, 2 élèves qui se chahutaient et puis l'un d'eux a commencé à frapper sur l'épaule de sa camarade assez fort et ils se sont mis à tourner autour de moi pour se poursuivre, et elle a pris la manche de ma veste en me faisant tourner sur moi-même, voilà, et j'ai en plus entendu un groupe de jeunes dire Monsieur Claire, il est en difficulté. J'ai traité, c'est-à-dire c'est pareil, ça prend toujours du temps, c'est-à-dire que l'élève qui a été violent physiquement, j'ai dû faire une enquête pour obtenir son identité parce qu'il ne me l'a pas, donné. Mais voilà, j'ai réclamé une journée d'exclusion pour ces 2 élèves et je leur ai verbalisé que je suis en droit, en tant qu'agent représentant de l'État, d'aller porter plainte. Je me souviens que la sanction en termes d'amende est de l'ordre de 15 000 euros, hein, donc c'est significatif, voilà, pour bien leur recadrer. Sans aller jusqu'à porter plainte, ça je l'utilise en tant que menace, mais il y a au besoin une procédure qui peut être utile, que j'avais utilisée il y a de ça quelques années quand un élève était venu réclamer son téléphone portable en fin d'heure et il m'avait poussé au niveau de l'épaule en disant vas-y maintenant tu me rends le portable. Et alors bon, il y a eu la procédure interne à l'établissement, alors nous avions une proviseure qui était à mon avis un peu trop laxiste, mais bon, mais je suis allé au commissariat le soir et j'ai déposé une main courante. On est très bien accueillis dans les commissariats hein, quand on fait ces démarches, très bien conseillés. Et ils ont convoqué l'élève qui a eu un rappel à la loi très, très ferme devant ses parents. Ça a été solennel. Depuis, l'élève, bon, vraiment, c'est bien comporté. Il n'y a plus de soucis, mais ça fait partie des pistes aussi, hein, parce que évidemment, faire payer 15 000 euros aux élèves, on y réfléchit à 2 fois. Mais la procédure dont je viens de parler a son utilité. Ça peut être symboliquement marquant. Le corps de l'enseignant est et doit rester sacré. Ça, c'est quelque chose de grave quand il est comme ça touché par un élève. Oui, d'accord, c'est pas volontaire. Mais il y a eu chahut quand même à côté de la collègue, alors qu'il savait que le professeur était là, et il n'y a pas eu d'acte volontaire non plus pour empêcher pour s'arrêter comme la collègue était là. Elle a pris quand même un coup, ce qui montre que les élèves n'étaient pas vigilants à sa présence physique d'enseignante. Ils n'ont pas fait exprès aussi de vous éviter. Ils n'ont pas fait exprès non plus de vous éviter. Ils n'ont pas fait attention.
Vous étiez devant la porte de la classe, que je suis en train d'ouvrir la porte de la classe, et que forcément je ne suis pas loin. Et voilà, et vous vous bagarrez quand même juste là à côté de moi. Donc, quelque part, vous savez que vous êtes en train de
faire
aussi.
Oui, oui.
En fait, ma remarque rejoint un petit peu ce que vous dites. Vous posez la question de la sanction, et c'est vrai que très souvent, on est amené à prendre des sanctions qui ne sont pas comprises ou pas acceptées par les parents. Et donc, c'est une question sur laquelle on revient souvent, et je crois que c'est aussi important de soulever ce point, parce que c'est vrai que si les jeunes ou les enfants reçoivent une sanction et qu'elle est... je dirais niée par les parents ou que les parents la refusent, et bien à ce moment-là, elle perd toute crédibilité. Ça, c'était la première remarque. Et puis la deuxième remarque est par rapport à ce que disait ma collègue à l'instant. C'est vrai que les enfants ou les jeunes, lorsqu'ils sont en situation de commettre un acte quel qu'il soit, souvent ne comprennent pas qu'ils sont responsables de l'acte qu'ils commettent, même si effectivement ils ne font pas exprès. Et être responsable, c'est pas forcément être fautif, mais on a aussi ce rôle. On doit aussi leur expliquer qu'à partir du moment où il se passe quelque chose, ils ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, qu'ils ne peuvent pas toujours se retrancher derrière l'autre ou derrière les parents. Voilà.
Juste sur les parents, moi je crois que, et là encore ça renvoie à des quelques expériences que j'ai eues dans les années récentes, je crois que l'établissement d'enseignement n'est pas seulement un prestataire de service pour les parents, mais c'est aussi une communauté qui doit valoir pour les parents. Donc ça implique, il y a eu récemment d'ailleurs un, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous y renvoie, cherchez-le, un article dans le monde sur le résultat d'expérience consultation régulière avec les parents, d'implication des parents dans un certain nombre de collèges et lycées difficiles, avec des résultats extrêmement positifs, statistiquement étudiés, y compris sur les enfants des parents qui n'avaient pas pu être contactés. Donc c'était un effet de communauté. Et c'est là où je pense que aujourd'hui, malheureusement, mais ça Sébastien le dit bien, ça prend du temps tout ça, mais il est absolument indispensable d'établir des concertations avec les parents, de faire de l'éducation des parents aussi, soit au cas par cas, dans le cas des sanctions individuelles, soit, je dirais, beaucoup plus en amont, dans le cadre de la vie de la communauté. Quand je dis que ça me renvoie à des expériences, j'ai constaté que dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, dans certains lycées, le lycée fonctionne comme communauté d'éducation des parents, d'une certaine manière, via les enfants. Bon, c'est des parents qui sont très handicapés, je dirais culturellement, souvent. Les enfants sont plus intégrés, paradoxalement, que les parents. Et c'est le lycée qui fonctionne aussi comme ça. Plus Zidane, hein, il faut ajouter. C'est-à-dire que si tout va bien à Marseille, c'est parce qu'il y a un grand homme qui impose l'ordre, c'est Zidane. C'est vrai, hein.
Alors, trois points. Concrètement à cette maman d'élève qui m'avait fait demander, donc elle avait appelé le lycée et elle demandait vraiment à me parler de manière urgente parce que j'avais sanctionné sa fille qui avait envoyé un texto en cours. Et la maman m'avait expliqué, elle était vraiment très fâchée, que durant le même cours, une de ses camarades avait également envoyé un texto et n'avait rien eu. Bon, voilà. Donc j'ai pu expliquer à la maman tout en lui demandant des excuses. Je lui ai dit excusez-moi, mais je ne suis pas Dieu et je n'ai pas vu sa première camarade. Si je l'avais vue, elle aurait naturellement été sanctionnée de la même façon. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, premier point, explication quand c'est possible. Deuxième point. C'est la proviseure adjointe dont je parlais tout à l'heure qui m'avait soufflé cette bonne réponse par rapport à un parent qui voulait trop protéger son fils, qui comprenait pas la sanction que nous avions décidée, etc. Et elle lui avait dit « Monsieur, vous n'aidez pas votre fils à grandir. Nous avons à être cohérents en tant qu'adultes pour l'aider, pour le tirer vers le haut. » Et ça avait calmé le papa de lui dire « Monsieur, vous n'aidez pas votre fils à grandir. » Voilà. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que, de fait, parfois, nous sommes confrontés, ça arrive, il y a des élèves qui sont désaxés, il y a des professeurs qui sont désaxés, mais il y a aussi des parents qui sont désaxés. Voilà, donc enfin, je voulais vous confier ça. Et c'était il y a deux semaines, une réunion parents-professeurs. Un parent qui mordicus défendait sa fille et qui finit par me dire « De toute façon, vous comprenez rien à la vie, assis derrière votre bureau à longueur de journée. » Bon, j'avoue que je n'ai pas pu, là, conserver mon calme. Voilà, il y a des fois où c'est... j'avais eu 8 heures de cours et, bon, enfin, vraiment, c'est 8 heures de cours, évidemment, debout, au milieu des élèves, c'est assez physique. Donc, m'entendre dire « De toute façon, vous comprenez rien à la vie, assis... » Bon, c'est là, pour le coup, quand le parent voilà, et des accès entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour sa personne, hein, il n'y a tout simplement plus de solution. Hein. Non, je pouvais pas le taper. Non, ça a été un échec complet, c'est-à-dire que bon, enfin voilà, je n'ai pas pu, comme je disais, face à quelqu'un qui sort de ses gonds et qui est désaxé, ce qui est efficace, c'est de rester calme, de lui faire comprendre qu'on l'entend. et de le mettre devant ses contradictions, etc. Mais là, je suis sorti de mes gonds et je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Donc je lui ai dit, moi je reste derrière mon bureau assis toute la journée. Vous savez la journée que je viens d'avoir, monsieur. Donc voilà, je lui ai expliqué 8 heures de cours, 8 heures debout, avec des classes pour certaines très difficiles, c'est très physique. Et on a rompu la communication. Il est parti en disant que de toute façon c'était un lycée de BIP et voilà. Donc c'est un échec. Voilà.
Oui, je voulais justement rajouter un petit quelque chose à ce que vous venez de dire. C'est que j'ai remarqué avec au fil du temps avec les parents que pour éviter le conflit. Alors évidemment, encore une fois, on n'est pas dans un établissement comme le vôtre, donc on a des gens quand même à peu près civilisés.
On en a aussi. Hein.
mais qui ont aussi leurs difficultés et qui aussi soutiennent leurs enfants mordicus. J'ai remarqué qu'en fait, ils ont d'abord besoin de parler. Donc en fait, les laisser parler, les laisser vider leurs ressentiments ou leur mécontentement, etc., en étant finalement simplement à l'écoute, sans répondre. Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Et que quand ils ont tout fini, en fait, quand ils ont vidé leur sac, on peut commencer à discuter et à ce moment-là, ils commencent à écouter. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai remarqué et du coup, il n'y a pas de conflit.
Bon, alors, moi, je trouve que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça me donne des idées. Il faut faire un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler, comme pour RMC. Si, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Villepin, que je répondais, c'est fait le 36-14, je ne sais pas combien. Et puis, je suis sérieux, hein, je rigole pas. Et vous pouvez aussi mettre en place sur le site internet du lycée, de l'établissement, vous pouvez mettre un endroit où les gens peuvent écrire par mail ce qu'ils ont pour s'exprimer, hein, vous dire, un petit peu comme le principe des commentaires sur les blogs, hein, vous dire, non mais je plaisante qu'à moitié, vous dire. Hein.
Oui, merci de votre piste. Hein, surtout que chez certains, on s'aperçoit que, évidemment, il y a de leur propre rapport à l'école, de ce qui s'est passé durant leur propre scolarité, dans le fait de rencontrer un enseignant. Et ça fait quelques années que je suggère dans mon établissement que lors du premier rendez-vous parents-professeurs, la grand-messe où tous les parents viennent, plutôt qu'un discours à semant de proviseur immédiat, nous ayons un temps convivial auparavant, c'est-à-dire un temps d'échange autour d'un pot, voilà, où on puisse discuter, parler chacun de notre vie avant de parler de l'enfant, parce que pour certains parents, c'est vrai qu'il y a quelque chose de violent d'arriver dans un établissement scolaire quand eux-mêmes ont eu une scolarité parfois difficile, et puis de s'entendre dire des choses difficiles sur leur enfant, donc finalement qu'ils ont fauté dans leur éducation. Alors, en tout cas, ils le prennent comme ça pour certains. Donc voilà, à mon avis, ça peut être une piste aussi que le premier rendez-vous parent-professeur commence par un temps convivial d'échange autour d'un pot avant de parler de leur élève, qui sent qu'on est des personnes humaines, quoi.
Juste, j'ajoute une précision pratique. Moi, je suis très pratique. C'est à cette réunion, il faut badger les profs. Je ris pas hein, non plus. Ça, c'est un des gros problèmes français. Dans les réunions, personne ne sait qui est qui. Hein
voilà. Oui. J'ai une deuxième question. Vous parlez depuis tout à l'heure de demande d'exclusion. Alors, en fait, si j'ai bien compris, lorsqu'il y a un problème en classe, soit vous passez par la retenue, ou soit, si c'est compliqué, vous demandez donc une journée d'exclusion. Je voudrais savoir à qui vous demandez la journée d'exclusion. Et si la journée d'exclusion n'est pas, donnée à l'élève en question, je voudrais savoir comment ça se passe après en classe par rapport à l'aspect autorité. Je reprendrai votre expression en disant, de toute façon, M. Clerc, c'est un bouffon, il n'a pas réussi à me faire exclure. Donc voilà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment c'est organisé dans votre établissement. Si voilà, il y a 2 heures de colle, après les 2 heures de colle, il y a 4 heures, après les 4 heures, il y a une journée d'exclusion. Enfin voilà, avoir une échelle de sanctions qui puisse effectivement nous permettre, nous, de voir si la nôtre peut être améliorée ou est améliorable et voir effectivement qu'est-ce qui se passe en cas de refus.
Oui. Alors déjà, je l'ai dit, les heures de retenue, je n'en donne plus puisque c'était plus une sanction pour moi que pour les élèves. Donc la procédure, c'est donc la première fois. Donc c'est travail supplémentaire plus lettre de demande d'excuse pour pouvoir être réintégré à mon cours. Hein, c'est en échangeant avec les collègues sur le fait que quand je donnais un travail supplémentaire aux élèves, souvent ils ne l'avaient pas fait, donc je mettais zéro, mais ils réintégraient le cours comme si de rien ne s'était passé et ça ne changeait rien. Et c'est ce collègue qui m'a dit « Écoute, moi, je n'accepte pas l'élève en cours tant que la sanction n'a pas été faite. Ça le force à faire une démarche et ça se passe différemment. » Et donc voilà, déjà c'est la première étape. Après, je demande une journée d'exclusion pour perturbation incessante du cours. Ça dépend des établissements. Là, dans notre établissement, le chef d'établissement a décidé une délégation, comme ça arrive assez souvent que nous ayons à réclamer une journée d'exclusion du cours, aux conseillères principales d'éducation. Voilà, qui essaie d'organiser, si c'est possible, une exclusion-inclusion, donc avec du travail sur place, voilà, et puis éventuellement une semaine d'exclusion, et puis bon, bah là, je fais une commission vie scolaire où on explique bien aux élèves que c'est leur dernière chance. Et puis, conseil de discipline. Ceci dit, j'ai connu, je vous disais, une chef d'établissement qui était assez laxiste sur une période de ma carrière d'enseignant. Et je me souviens notamment qu'une élève qui avait dit aux collègues de mathématiques, une élève de la classe dont j'étais professeur principal, « Va te faire foutre, sale connard ». Au bout d'un mois et demi, comme c'était très grave, le rapport était sur le bureau de la proviseure. Il y avait beaucoup de choses sur son bureau. Au bout d'un mois et demi, l'élève n'avait toujours pas eu de sanction. J'ai dû faire une lettre officielle pour expliquer que c'était très grave et que, on avait perdu crédibilité devant la classe finalement. Il s'était passé quelque chose de très grave. On n'avait pas eu de réponse et j'avais menacé d'envoyer une copie de cette lettre au rectorat pour débloquer la situation. C'est vrai que bon, après juste une piste pour ce qui est parce qu'il faut voir aussi que nos CPE et puis les chefs d'établissement sont souvent surmenés. Effectivement, ils ont beaucoup de choses à gérer et on s'aperçoit que quand c'est le cas, que voilà, il y avait vraiment beaucoup de travail à gérer, ce sont souvent les enseignants qui sont les plus chiants entre guillemets, qui obtiennent une avancée dans le processus de sanction, c'est-à-dire prendre le temps d'aller frapper à la porte de la CPE, patienter devant le bureau du chef d'établissement pour réclamer la sanction. En général, si on argumente. Et si on a respecté le pacte dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on donne sa chance à l'élève en passant par vraiment tous les points de la procédure, hein, sans en venir tout de suite à réclamer le conseil de discipline. Le plus souvent, on est entendu.
J'ai une question d'ordre pratique. J'ai mis en place avec les élèves, donc dès le début de l'année, une échelle de sanctions pour le bavardage et pour les oublis de travail. Donc, en ce qui concerne le bavardage, donc au premier avertissement, ils ont le droit à l'erreur, parce que ça arrive à tout le monde de s'oublier. Au deuxième avertissement, ils ont une punition, donc du cours à copier ou des exercices à faire. En général, je donne du cours à copier, comme ça je suis sûre qu'ils apprennent leur cours, et ils peuvent pas me dire « j'ai pas réussi à faire l'exercice ». Et je me suis heurtée au problème d'un élève qui m'a dit « je préfère être collé ». Alors, qu'est-ce qu'on répond ?
Vous répondez, c'est une sanction. Je ne sais pas. Par l'absurde, il préférerait peut-être aller à Disneyland ou c'est une sanction. Ça n'est pas négociable.
En fait, la retenue, c'est la sanction d'après normalement. Donc, c'est un peu. En fait, il préfère la sanction plus importante selon moi. Donc, est-ce qu'il faut dans ce cas-là réévaluer
à adapter l'échelle de sanctions. J'expliquais que j'ai personnellement renoncé à la retenue, puisque soit, comme vous le dites, ça ne décourage pas les élèves, soit ils ne la font pas. Du coup, il faut la doubler, c'est difficile à organiser. On risque d'en venir à un avertissement d'une manière insatisfaisante. Ça me semble un peu dommage d'arriver à un avertissement à cause de ça. Voilà, donc enfin, je vous ai dit, moi je préfère donner des exercices ou recopier le cours, c'est très bien aussi, hein. C'est mieux que les sanctions qui consistent simplement à écrire 100 fois « je respecte mon professeur ». Bon, mais en exigeant que ça soit fait pour pouvoir être réintégré au cours, comme ça on est sûr qu'il a fait la sanction. Parce que mine de rien, même avec les élèves difficiles, quand ils risquent d'être... exclu du clan, exclu du groupe, il se passe souvent quelque chose. Donc adapter l'échelle de sanctions. Hein, si...
Je voudrais revenir justement sur votre échelle de sanctions, parce que vous dites que vous avez supprimé, je suis là. Merci. Vous dites que vous avez supprimé la retenue, donc vous avez le travail supplémentaire, mais alors, c'est du coup une sanction que vous donnez plusieurs fois de suite, ou c'est le travail supplémentaire et après la sanction d'après c'est une journée d'exclusion. Finalement, qu'est-ce qu'il y a comme intermédiaire?
Encore une fois, en matière de tenue de classe, il ne saurait y avoir de science exacte, donc ça va dépendre des cas. Si c'est léger la fois suivante, ça sera également un autre travail supplémentaire, plus long, avec deux exercices de plus. Si vraiment ça empêche le groupe d'avancer, ben, j'explique bien aux élèves, je suis capitaine dans mon cours, responsable de la réussite de ceux qui viennent là pour travailler, et je réclame auprès de la CPE ou du chef d'établissement une journée d'exclusion. J'avance dans l'échelle de sanctions.
Oui, je crois que sans être particulièrement pervers, il faut être inventif pour les sanctions. C'est vrai que la retenue, si c'est juste du temps et puis qu'il n'y a pas de travail et qu'on n'est pas occupé, c'est pas gênant. On dit qu'en revanche, recopier du cours, ça c'est embêtant. À mon avis, c'est votre échelle de sanctions qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut probablement que recopier du cours ou recopier quelque chose ou faire une recherche, ça soit la sanction plus grave que la précédente. De ce côté-là, je pense qu'il faut être inventif, encore une fois, sans être complètement diabolique, mais il y a beaucoup. Je pensais, parce qu'il y a des... Pas en France, mais il y a des... Peut-être si, en France, ça existe, mais il y a la possibilité, par exemple, pour les élèves de rendre un certain nombre de travaux électroniquement sur des blogs de classe. Vous pouvez rajouter du travail pour rendre sur le blog, et puis ensuite, vous pouvez aussi... déconnecter quelqu'un du blog pour qu'il vous les rende par écrit, par exemple. Vous voyez un petit peu, je dis ça parce que c'est un exemple qui se passe en Andorre, hein, je veux dire, en Andorre où c'est très électronique, tout est très informatisé. On donne aux élèves des possibilités importantes de travailler électroniquement. S'ils sont véritablement pénibles, on les ramène à un fonctionnement traditionnel qui pourrait être bien pire. Vous voyez, et c'est pas ça, on peut pas dire que c'est une atteinte aux droits de l'homme. Hein.
Juste, ça me rappelle cette adaptation que j'avais faite par rapport à mon système donc d'exercices supplémentaires. Je m'étais aperçu que quand je corrigeais ces exercices, que je les notais, j'intégrais la note dans la moyenne, chez trop d'élèves, c'était plaisant finalement. Et notamment avec les classes où il y avait beaucoup de filles, peut-être parce qu'elles sont un peu plus scolaires, je ne sais pas, mais donc voilà, j'ai adapté pour que ça reste une sanction, c'est-à-dire que maintenant je ne mets une note que si le travail a été fait par-dessus la jambe ou mal fait, et là je redonne des exercices à faire, mais sinon je ne rends plus les exercices et je ne les corrige pas. Déjà aussi par justice envers moi-même, puisque c'est une sanction, je ne veux pas me donner du travail supplémentaire à moi. Voilà, donc j'ai adapté là aussi parce qu'une sanction doit rester désagréable pour être une sanction.
On va prendre peut-être encore une ou deux questions. Avant que... Sauf s'il n'y en a plus du tout. Non. Il n'y a pas de choses qui vous sont restées sur le cœur et qui vont vous tarauder pendant tout le week-end en disant j'aurais dû poser la question. Vous pouvez les envoyer à l'Université de tous les savoirs. Hein, et on répondra si vous avez.
Il y a une petite question. Là.
Ah, bah, encore, allez,
en fait, je vous ai entendu, monsieur Claire, vous avez dit à un moment je réclame au CPE ou au chef d'établissement. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le cas tout le temps, mais je sens qu'il y a une démarche personnelle. Et c'est vrai que j'irais de temps en temps, on a aussi tendance à confier le bébé à l'autre, j'irais quelque part. Et je crois que cette notion d'équipe est très importante dans l'éducatif. On doit être ensemble avec une certaine cohérence. Et bien souvent, on escompte sur l'autre ou on compte sur l'autre. Et je trouve que des fois, il y a ce travail d'équipe qui n'est pas appliqué.
Je vous prie de m'excuser, je me suis mal fait comprendre et j'ai été imprécis dans mes termes. Quand j'ai dit je réclame, je veux simplement dire que le pouvoir de décider d'une journée d'exclusion ne m'appartient pas. Il appartient au chef d'établissement ou dans le cas de mon établissement au CPE pour ce qui est d'une courte exclusion. Il ne m'appartient pas. C'est en ce sens. Évidemment, le travail éducatif doit se faire par équipe. C'est ça d'ailleurs qui est le plus efficace avec les élèves, c'est qu'ils sentent qu'il y a plusieurs adultes qui sont en train de se pencher sur leur cas. Et c'est ce qui crédibilise, c'est-à-dire que évidemment quand l'élève est reçu avec le conseiller principal d'éducation, je fais tout pour être présent à cette discussion. Et là, c'est très utile puisqu'il y a à la fois quelqu'un qui est un peu plus en retrait, qui a un peu une position d'arbitre, et il y a le professeur qui est présent. Oui, oui. Enfin, votre précision est très importante. Hein, le travail éducatif est un travail collectif.
Il y a bien deux dernières questions.
Oui, vous avez mis en place une échelle de sanctions négative, mais est-ce que vous avez mis une échelle de sanctions positive en place ?
Alors, je parlais de la note de sérieux, hein. C'est-à-dire que j'annonce à mes élèves à la première heure qu'ils ont déjà une note dans mes moyennes, qui compte en français et en histoire, que cette note est un 20 sur 20 et qu'elle est coefficient 2. Bon, ça crée un petit effet de surprise. Et puis, je distribue le barème de cette note de sérieux. Alors, j'ai mis sur 8 points savoir écouter, c'est-à-dire ne pas bavarder, parce que c'est ce qui m'apparaît le plus important avec mes élèves pour que la transmission des connaissances se passe. Ensuite, il y a 3 points sur respecter les consignes données par le professeur. Il y a 3 points pour la participation orale. Moins ensuite, on arrive à une note sur 20. Et puis, c'est moins 1 à chaque absence injustifiée. Donc, moi, j'ai mes grilles Excel, hein, avec ou pour chaque séance, voilà, je note. Alors j'ai mis aussi 3 points pour le début de cours, parce que ça m'apparaît stratégique le début de cours, c'est-à-dire quand je fais l'appel, j'en profite pour mettre début positif ou début négatif pour les élèves qui sont présents, parce que c'est sur 3 points, et les élèves savent que voilà, pour avoir début positif, il faut être silencieux, avoir sorti son classeur et être stylo en main. D'ailleurs, la semaine dernière, une classe m'a fait une surprise pour le coup, et peut-être pour terminer sur quelque chose de positif, où je suis arrivé à la fin de la récréation, il n'y avait pas d'élèves. Je me suis dit, ils sont tous absents. Ou j'ai ouvert la porte, j'allume la lumière, et là, j'entends surprise. Et tous les élèves étaient leur stylo à la main avec le classeur ouvert. Bon, pour dire que des fois, on fait un métier où on est très souvent surpris. Ça, c'est la règle générale. Parfois en mal, parfois en bien. Voilà. Et cette note de sérieux, donc je demande que le barème de la note de sérieux soit la première feuille dans leur classeur. Durant le mois de septembre-octobre, je vérifie à chaque cours qu'ils ont leur classeur avec la première feuille et la feuille sur la note de sérieux. Je précise que cette note de sérieux ne modifie, comme j'ai une quinzaine de notes, ne modifie la moyenne que d'un point et demi maximum, il faut que ça reste significatif. Et elle est encore plus efficace au deuxième trimestre, quand les élèves ont eu le verdict du premier trimestre et qu'ils ont vu certains élèves avoir la moyenne grâce à cette note de sérieux et d'autres plonger parce qu'ils n'avaient pas su écouter leurs camarades. Je pense que ça n'est pas mentir aux élèves que de procéder ainsi, puisque ce qui va faire peut-être, ce qui va avoir le plus d'influence dans le fait qu'ils vont réussir ou non dans leur vie active, ça n'est pas forcément la capacité à magasiner des connaissances. C'est plutôt la capacité à échanger dans le respect avec les autres, la capacité à être sérieux, la capacité à être concentré. Donc je pense que ça n'est pas leur mentir d'introduire ça dans nos moyennes. Voilà, donc comme dans la plupart des cas, au final, ça permet, cette note de sérieux permet de monter la moyenne, je pense que c'est une sanction positive comme...
même grille?
Pas du tout. Et en fait, ça me... Excusez-moi.
Vous n'êtes pas contraint à tous faire la même chose?
Non, nous ne sommes pas contraints à tous faire la même chose, sauf sur certains domaines importants. Là, nous gardons une liberté, une marge de manœuvre sur la gestion de nos cours. Et je pense que les exigences, effectivement, pour une note de sérieux, diffèrent d'une matière à l'autre, et puis certainement d'un enseignant à l'autre. C'est la raison, à mon avis, du... je vais être prudent... Ah, non, tant pis. De l'échec de la note de vie scolaire au collège. C'est... imposé d'une manière générale, enfin, ça me semble, enfin, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Hein. Un élève va avoir un comportement différent d'un cours à l'autre. Comment être objectif? On se retrouve avec des élèves, enfin, pour en avoir discuté avec des collègues, qui ont été insupportables tout le trimestre. Et comme en fait, ce qui permettait de baisser les points de la note de vie scolaire, ben, ils l'ont fait que 4 fois. Ils ont 16 de notes de vie scolaire alors qu'ils ont été insupportables. Bon, enfin, c'est très difficile à gérer, à mon avis, d'une façon collective.
Bien, bon, on va en rester là.